18h, 20h, Fou de sport. Avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Bonsoir. En attendant l'arrivée de notre Sanjak national, mon cher coach, mon cher Nasser, eh bien, nous allons entamer cette première partie d'émission avec Sofiane, mais également avec vous, les auditeurs, 01 53 48 3000. Beaucoup de sujets, notamment durant cette première heure. Merci. Voilà, Sofiane va s'installer. On va essayer. Bonsoir, Sofiane.
Bonsoir, Mohamed.
Eh ben oui.
Est-ce qu'on est bon là?
Ah, là, on est bon.
Bon, ça fait plaisir.
Très bien, bah écoute, voilà, tu t'installes tranquillement. Vous voyez, tout ça, c'est du live. C'est justement parti jusqu'à 20h pour ces 2 heures de foot non-stop.
Jusqu'à 20h, Foot en sport sur Beurre FM. Beurre FM.
Alors, je vous l'ai dit, effectivement, nous allons avoir une émission très très chargée, notamment avec l'Euro, puisque lui continue à se dérouler. D'ailleurs, nous aurons en fil rouge 2 rencontres. Et oui, ça avance déjà, puisque nous en sommes à la 3e journée. Merci pour l'écran live, Sofiane. Et en même temps, nous allons suivre en fil rouge la demi-finale, la première demi-finale de la Coupe de la CAF, qui oppose le Coton Sport de Garoua à la JS Kabylie. Le match se déroule à Yaoundé au Cameroun. Nous suivrons ce match. Mais en attendant, l'arrivée du coach, comme je vous l'ai dit, pris par les bouchons parisiens, et parce qu'il n'y a plus de couvre-feu, tout est déconfiné, forcément que les routes sont très très chargées.
Jusqu'à 20h, Foot en Sport sur Beurre FM. Beurre FM.
Bonsoir Sofiane.
Salut Mohan.
Ça va?
Et toi, comment vas-tu?
Bah écoute, franchement, je dis, on a passé une semaine agréable parce que, mine de rien, l'actu était toujours là. Déjà, il y a l'Euro. Et à travers les matchs, rappelle-toi la semaine dernière, quand on a analysé la première journée.
Ouais.
Et à l'inverse, la deuxième journée a été complètement différente, mise à part la confirmation d'une nation aujourd'hui. Enfin, plutôt deux, je dirais, l'Italie et les Pays-Bas.
Ouais, t'aurais pu rajouter la Belgique.
Oui, la Belgique qui a beaucoup souffert avant de. Il a fallu faire rentrer le technicien qui a fait la différence, voilà. En parlant de De Bruyne. Ouais.
C'est ça, Kevin De Bruyne qui est l'homme, le passe-partout qui a les clés, en fait. C'est lui.
Tout à fait. Ça. Mais c'est important. Mais encore une fois, Sofiane, on revient à ces fameux joueurs qui peuvent changer un match. Là, on l'a dit, chez les Belges, on a Kevin De Bruyne. L'Algérie, elle a Riyad Mahrez, parce que tout le monde n'a pas Riyad Mahrez.
Bien sûr.
La France, bah, écoute, c'est un groupe, c'est compact. On reviendra sur cette déception de la deuxième journée et que là, Covid ou pas Covid, en Hongrie, il y avait quand même 70 000 personnes dans le stade.
Exactement. Bah, déjà, faut quand même souligner que là où c'est quand même agréable, en ce début d'été, on a du football avec des supporters dans les stades.
Ça fait plaisir.
Ça fait beaucoup. Voilà, ça fait bien sûr. Parce que l'essence du football, notamment du football de haut niveau, c'est de jouer devant des gens quand même, devant du public. Et on voit que bah, forcément ça change tout hein. Quand tu joues devant du public. On le voit avec les Italiens qui, quand ils jouent devant leur public à Rome, sont comme transcendés.
Exactement, voilà, c'est... Exactement, ouais.
Et on l'a vu hier, comme tu as dit, l'équipe de France face à une aréna complète de 60 000 personnes, en grande difficulté, en grande souffrance. Donc on est content déjà de ça. Après, sur ce début de compétition, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, les gros sont au rendez-vous. Alors c'est aussi un peu le nouveau format de la compétition, parce qu'on est à 24. Ce qui fait qu'on a beaucoup de petits pays, donc la Macédoine du Nord, la Slovaquie, beaucoup de tout petits pays.
Mais les gens doivent juste savoir ce qui s'est passé réellement dans l'histoire de l'Europe. C'est la crise des Balkans et de la chute du mur de Berlin qui a fait exploser le compteur UEFA, qui était, arrêté à 33 ou 34 nations. Et avec la chute du bloc soviétique, nous sommes passés aujourd'hui, je crois, à 53 nations sur quasiment le même nombre que l'Afrique.
Ouais, c'est ça, c'est une cinquantaine de fédérations, en sachant que tu as des exceptions qui n'appartiennent pas à l'Europe, par exemple les pays anciennement de l'URSS, type Azerbaïdjan, qui sont très loin en Asie, mais qui sont comptabilisés comme étant l'Arménie, tout ça, considérés comme des pays
européens,
Turquie aussi, qu'on suivre le match. Donc ça fait beaucoup de pays, 54 nations. Donc forcément, pour qu'un peu tout le monde puisse vibrer devant le spectacle, on est passé à 24. Et l'Afrique a fait pareil, puisqu'on est passé à 24 aussi l'année d'après.
De toute façon, donc, en Afrique, on fait que du copier-coller.
C'est ça, t'as tout compris. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Donc comme on l'a dit, beaucoup de petits pays. Donc forcément, on a une phase de poule un peu à rallonge. Malgré tout,
comme de bons matchs. Hein.
quand même des bons matchs.
Il y a eu quand même des bons matchs.
Il y a eu des bons matchs, notamment le Allemagne-Portugal qui est un très bon match, au sommet de jeu.
Ah oui, franchement, j'ai pris du plaisir à regarder ce match.
Voilà, à Munich, devant pareil, devant des supporters. Et puis bon, c'est toujours marrant de voir, tu sais, des derbies type Angleterre-Écosse où les deux sont des cousins, mais que il y a une grosse rivalité historique entre les deux. Ça fait 0-0, donc les Écossais qui ont donné plus faible.
Le Brexit n'a rien arrangé entre ces deux pays. Hein.
C'est exactement ça, totalement. On sait que c'est chaud entre les deux, les cousins britanniques, mais ça nous a donné un 0-0 où les Écossais se sont mis au niveau, se sont battus. Donc, on a même vu aussi le joueur suisse Arnautović, tu sais, qui est d'origine serbe,
oui,
qui avait eu une polémique parce que, tu sais, cette bande du Nord Serbie, donc les anciennes pensions de la Yougoslavie, tu disais, qui a insulté, enfin bref, sur un terrain de foot, ça n'a rien à faire là, mais on voit que quand même les tensions, les rivalités régionales sont là aussi dans cette Europe qui est chargée d'histoire, hein, bien sûr. Et donc, ça nous donne un début de compétition où, comme on disait, on est content de retrouver du foot avec des supporters, des bons matchs. Et si on doit faire une analyse un peu lapidaire comme ça sur le début de compétition, les gros sont là. Donc, comme tu as dit, la Belgique, l'Italie qui est un peu l'outsider que personne n'attendait, mais qui a trouvé son équipe.
Je pense que Roberto Mancini a quand même réussi à aller chercher des joueurs, non pas dans les grands clubs italiens, mais dans des clubs moyens, mais qui est notamment le cas de Locatelli. Hein.
Ouais. Ah oui, c'est Locatelli, si je ne me trompe pas, c'est où? C'est Bergame, non?
Sassuolo.
Sassuolo, ouais. Sassuolo, exact, ouais.
Ben oui.
Et tu as quelques joueurs, tiens, et alors qu'on voit en direct, tu as l'ouverture du score suisse.
Contre la Turquie.
Contre la Turquie, de belle frappe.
Donc voilà. Alors, encore une fois, on va revenir tout à l'heure parce que la Turquie, on nous l'a vendue.
Ah oui, oui.
Mais.
On nous l'a vendue et moi j'ai acheté. Donc,
toi tu t'as acheté?
Ah, moi j'ai acheté. Je pensais vraiment que la Turquie allait faire un parcours. Puis en final, c'est assez grosse déception.
Ah oui, quoi. Deux défaites. Là, on est sur la troisième, puisque là, après, ils ont cassé un but après 8 minutes de jeu, là.
C'est ça. Deux défaites en montrant pas grand chose. Oui. Parce qu'à vrai dire, les Hongrois, par exemple, on savait qu'ils étaient outsiders dans ce groupe très difficile. Mais les Hongrois, ils pourront sortir quand même la tête haute de ce groupe. Hein. Ils ont tenu la dragée haute au Portugal avant de prendre 3-0. Le score est assez immérité quand même. Contre la France, ils font un sacré match quand même, dans la combativité, dans l'envie, etc. Et puis même devant, c'est pas si mauvais que ça, la Hongrie. Mais la Turquie, moi personnellement, je voyais pas mal de bons joueurs. On a notre colonie qui est à Lille, donc les Ekiselik, les Yazice et Burak. Oui. On a nos joueurs aussi, on a des joueurs aussi qui jouent un peu partout, les Senji Junder de la Roma, des joueurs aussi qui jouent les Coupes d'Europe. Donc on voyait la Turquie qui en plus était sur une grosse série aussi en éliminatoire de la Coupe du Monde 2022 là, qui a commencé.
Tout à fait.
Une vingtaine de matchs, je crois. Et donc moi, personnellement, j'avais acheté cette Turquie qui, de temps en temps, donc 2002, 2008, nous sort des petits exploits comme ça. Mais au final, il n'en est rien. La Turquie qui, là, est en train d'enchaîner une troisième défaite de rang et qui n'a toujours pas marqué un but en...
Mais c'est ça qui est incroyable, hein, zéro but marqué.
Ouais. Ouais.
Justement, on va revenir d'abord sur cette semaine que nous avons tous vécue, notamment cette deuxième journée complète, étant donné qu'on arrive aujourd'hui à la troisième, mais avec ce premier match. Dans l'autre rencontre, juste un petit rappel, l'Italie et le Pays de Galles sont à égalité. Pour l'instant, zéro partout.
Fou de sport. La semaine sportive.
Alors justement, Sofiane, dans cette semaine sportive, on va prendre, non pas les matchs crescendo, mais juste déjà...
Quelques points chauds, oui.
Quelques points chauds. Notamment, le match d'hier. Hongrie...
France. Notre équipe, notre deuxième équipe nationale. Donc
voilà, on peut
forcément
le dire.
Ouais. Bien sûr.
Et là, encore une fois, et voilà que la polémique Benzema qui ressort à nouveau, que l'équipe de France, elle n'est pas faite pour lui, mais que Deschamps continue à lui faire confiance. Après tout, un très grand joueur, ce n'est pas que le côté technicien, mais je pense qu'à un moment donné, il y a un aspect psychologique qui rentre en ligne de compte. On ne peut pas voir à travers ce très grand joueur ce manque flagrant de réussite. Moi, j'ai du mal à le croire encore.
Bah, déjà, Mohamed, dans ce que tu dis, l'équipe de France, parce que nous, dimanche dernier, on n'avait pas vu la première journée de l'équipe de France. Il y avait eu mardi le Allemagne-France, à Munich, où les Français gagnent le match 1-0. Rapidement, ils gagnent le match 1-0.
Un CSC, hein, d'ailleurs.
Avec un CSC de Hummels. Ouais. Et avec quand même une défense française qui est un peu comme l'a titré l'équipe, d'ailleurs, comme en 18. C'est-à-dire avec une équipe assez solide derrière, qui n'a laissé aucune occasion aux Allemands, bon, qui était un peu diminué pour ce match, mais quand même. Ouais. Voilà, qui avait eu le monopole du ballon, et la France qui a été très solide derrière, avec devant Mbappé qui prend les espaces. Donc voilà. Sur cette analyse de match, moi, j'ai lu des choses sur lesquelles j'aurais pas vraiment compris. Quand par exemple on mettait Rabiot parmi les satisfactions, j'ai pas vraiment compris pourquoi. Et après, quand tu vois aussi sur ce match-là, parce que tu parles de Benzema, ça va faire la transition avec le second match. Il marque un but dans ce match. qui lui a été refusé.
Qui lui a été refusé, absolument.
Parce que hors jeu d'Mbappé. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, moi je pense que la vidéo, elle a été un peu capricieuse, puisque Mbappé va très vite, et il s'est pas dit qu'on ait le bon angle de passe. Donc à quelques peut-être centimètres d'observation près, le but était valable. Et on voit en plus que derrière Benzema tout de suite Deschamps le fait sortir, parce que depuis quelques matchs même en préparation c'est un peu son premier fusible quand il faut faire des changements. C'est Benzema qui sort, on le voyait un peu marqué et marqué justement parce qu'il n'a pas marqué.
Donc,
tu vois. Et donc il sort sur ce match alors que moi je pense que ce but-là tu vois lui aurait fait du bien. Et moi je pense qu'il y avait moyen qu'il soit valable. Petite parenthèse, c'est encore la vidéo est encore une polémique dans ce tournoi.
Mais il y a eu depuis le début quand même quelques erreurs d'appréciation. Hein.
Oui, quelques erreurs, notamment sur ce match France-Allemagne où normalement la France doit avoir un penalty sur Mbappé. Exact. Et je pense moi encore une fois ce but de Benzema, c'est sujet à interprétation, mais enfin quoi que le hors-jeu normalement c'est on y a hors-jeu ou pas.
Et cela aurait peut-être pu déclencher chez Benzema cet effet psychologique et lui permettre réellement d'évoluer dans de meilleures conditions.
Bien sûr.
Un buteur, c'est quoi? Un buteur, il marche au moral. Il marque ou il marque pas?
C'est exactement ça. Ce qu'on voit avec Benzema, c'est que depuis qu'il est revenu en équipe de France, il y a une attente autour de lui. Il y a une attente qui est suscitée déjà sur le plan sportif parce que c'est tout simplement aujourd'hui un des meilleurs joueurs du monde. Et ce qui se passe aussi, c'est que, et ça il n'en est pas, comment dire, il n'en est pas comptable. Mais t'as eu énormément de polémiques sur son retour sportive et extra-sportive, d'accord. Sur le match d'hier, on voit tout de suite que cette pression-là, l'occasion qu'il a de l'occasion qu'il a de marquer contre les Hongrois, je pense qu'au Real Madrid, dans un contexte qu'il connaît bien, où il est à l'aise, il la met au fond. Ouais. Donc ça pèse forcément sur son jeu.
Ouais. Alors que ce soit la reprise de la tête, notamment, celle-là, elle est flagrante.
Bien sûr.
Après, il y a eu cette reprise un petit peu...
On se précipite un peu
ouais, au point de pénalty. Oui, au point de pénalty, oui, absolument.
Voilà. Et en plus de ça, faut voir aussi que l'équipe de France, c'est une équipe qui joue un jeu assez particulier, donc à base plutôt défensive. Ce qu'on a vu hier, on regardait le match avec le coach. Ce que montre le match d'hier, c'est que en fait, l'équipe de France, et c'est là qu'on voit la pertinence du retour de Benzema, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de matériel. Une fois que t'enlèves...
Parce que dans le jeu, il n'est pas mauvais, Benzema, attention.
C'est exactement ça. Mais
oui.
Si tu compares avec les Italiens, par exemple, et ça revient au cas Rabiot, tu n'as pas dans ce milieu de terrain français le joueur capable de te faire la passe. On l'a vu avec De Bruyne quand il rentre, le joueur qui a les clés, capable de te faire la passe, de te créer quelque chose. Kanté sait le faire, mais Kanté joue trop bas par rapport à ce qu'il fait à Chelsea, où il est un peu plus haut sur le terrain. Donc là, on te met Kanté devant la défense, et normalement, ça doit être Pogba, Rabiot, donc du coup, positionné comme tel sur le terrain, qui doivent te faire le jeu. Or, moi, je pense que Rabiot, c'est pas un joueur qui a les qualités pour faire ça. Et Pogba hier a été assez décevant.
Oui,
de la vie de tous.
Oui, non, mais c'est quand même, ça a été la grosse surprise.
Voilà.
Autant, sur le premier match, on avait un Pogba hors norme, il faut le dire. Mais sur ce match contre la Hongrie, il était vraiment en deçà de ses capacités. Hein.
Exactement. On a vu un Pogba décevant et forcément donc dans cette équipe de France là quand au milieu de terrain il y a pas de transition avec les joueurs de devant, encore une fois quand tu vois le matériel qu'a l'équipe de France par rapport à certaines nations de cet Euro, si Benzema n'est pas là en tant qu'emblème, t'as pas grand monde devant quoi. Mbappé c'est bien, c'est un très bon joueur, t'as Griezmann sur le banc de touche, t'as pas grand monde. Dembélé qui rentre qui se reblesse tout de suite et on se rend compte que c'est pas une solution de pérenne. Ben Yedder qui était en tribune,
oui.
Et t'as Giroud qui joue pas beaucoup en club, donc il n'y a pas grand chose, quoi. Et effectivement, en plus, tu parles de Pogba, mais tu rajoutes à ça tout le contexte du match, où tu joues en Hongrie face à 70 000 personnes, qui reçoivent le champion du monde, donc ils vont pour le taper, il fait 35 degrés.
Ben oui.
Et on a vu des Français en grosse difficulté, qui en plus, et ça, c'est l'analyse, je la tiens du coach qui va arriver, mais qui était très juste aussi, c'est que les Français avaient ce match contre les Allemands, 3 jours avant.
Parce que c'était un match où ils ont épuisé au plus profond d'eux-mêmes. Ouais. Parce qu'ils étaient rincés à la fin du match.
C'est exactement
ils
ça.
Ils étaient rincés. J'ai vu les joueurs français complètement exténués.
C'est ça.
Et 3 jours après ou 4 jours après, tu le payes. Hein.
Et exactement, face à des Hongrois qui, eux, avaient perdu contre le Portugal dans des conditions un peu spéciales où là, il y avait vraiment cette volonté de faire mieux, quoi. Donc, les conditions du match, le match en lui-même, tout ça fait que, bon, bah, évidemment, si on s'attarde sur le cas personnel de Karim, à Karim qui ne marque toujours pas, mais après, encore une fois, dans la manière dont joue l'équipe de France avec la difficulté à créer, notamment au milieu de terrain, tu mets Benzema, tu mets Giroud, tu mets Tartampion, c'est compliqué de marquer un but. Hein.
Oui, encore une fois, on va revenir dans quelques instants après la pause sur l'absence d'un véritable patron, c'est-à-dire celui qu'on a toujours appelé le numéro 10, celui qui est le régisseur du jeu dans n'importe quelle grande équipe. On se retrouve dans un instant tout de suite.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM.
Et en fil rouge, comme je vous l'ai dit depuis le début de cette émission, nous avons trois rencontres. Après, on va dire 22 minutes de jeu, Italie-Pays de Galles 0-0, Suisse-Turquie 1-0, et Coton Sport GS Kabylie 0-0. Ça, c'est la demi-finale aller de la Coupe de la Confédération. Alors, quoi, juste le rappeler pour nos auditeurs que hier soir, notre ami Takfarinas, l'artiste, m'a appelé pour me dire que si la GSK va en finale, eh bien, depuis le Bénin, il va nous faire un live. c'est une promesse qu'il m'a dit, je tiendrai pour toi, Mohamed. Bon, ça fait plaisir. Et puis, c'est clair. Ça prouve aussi que le club est suivi par des supporters qui viennent d'un peu partout. Et c'est ce qui fait aussi la force de ce club, à savoir la présence de ses supporters à travers le monde. C'est la GSK. Donc, Sofiane, je reviens d'abord sur cette semaine sportive, notamment qui concerne, on va dire, pour l'instant, les équipes qui ont assuré leur ticket avec, on l'a dit, la Belgique, les Pays-Bas et l'Italie. On va dire que ce sont des équipes qui ont assuré normalement,
ouais.
Mais il y a aussi, de l'autre côté, les déceptions. Je pense à l'Espagne.
Ouais. Bon.
Le groupe le plus serré, finalement, ça va être le groupe de la France, puisque l'Allemagne s'est revigorée hier face aux Portugais. La France qui aurait pu gagner ce match, mais bon, qui n'a pas su le faire. Ils ont eu les occasions pour le faire. Et du coup, alors, au lieu d'être qualifié hier, il y a un dernier match.
Contre le Portugal.
Oui.
Un certain remake de la finale de l'Euro 2016.
Tout simplement.
Et sachant que, alors c'est un peu particulier ce match parce que la France a 4 points. Et en fait, avec 4 points, la France est qualifiée quasiment pour les 8e de finale. Mais ça va dépendre. Maintenant, il y a le classement. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, 4e pour l'instant, avec 4 points, pardon. Avec 4 points, normalement, t'es sûr. Même si la France, scénario catastrophe, perd contre le Portugal, avec 4 points, t'es qualifié. Normalement.
Ouais, mais attends, mais tu me dis qu'il est qualifié.
Mais meilleur troisième.
Oui.
Dans le pire des cas.
Oui, mais ça veut dire qui serait ce fameux quatrième? La Hongrie, alors?
Ce serait la Hongrie, ouais. Sachant que les Hongrois, parce ça a été l'objet d'un débat hier autour de la table, sur le match Hongrie-Allemagne.
Oui.
Le truc, c'est que la différence entre le match de l'équipe de France et le match de l'Allemagne pour les Hongrois, c'est que là, ils vont se déplacer à Munich.
Donc l'Allemagne aura joué tous ses matchs à domicile?
À la maison, ouais. Le match, ce sera à l'Allianz Arena, donc et donc forcément, je pense avantage pour les Allemands face aux Hongrois chez eux.
Ça voudrait dire, Sofiane, que déjà l'Allemagne aurait, d'après les calculs, au minimum 6 points.
C'est ça.
6 points. La France 4. Quatre.
Si jamais un revers complet.
Et les Portugais, s'ils battent la France, ils auraient 6 aussi.
Voilà, c'est ça. On peut aussi imaginer un match entre la France et le Portugal.
Oui.
Deux équipes qui se valent à peu près.
Qui a 4 points chacune.
Avec donc 5 points du coup pour la France et 4 points pour les Portugais, 6 pour les Allemands.
Oui, ça passerait. Ouais.
Et donc du coup, ça passerait pour les trois équipes, quoi.
Ouais.
En fait, c'est un scénario qui est assez probable, même si bon, on va se méfier parce que les Allemands qu'on avait un peu enterrés après le match contre la France,
oui.
On voyait cette équipe un peu qui avait du mal devant à trouver l'inspiration, à se créer des occasions. Regarde, ils en ont mis 4 aux Portugais hier. Et puis les Hongrois que personne n'attendait, on réussit quand même à accrocher la France. Donc on va attendre de voir cette troisième journée. Mais c'est vrai que là, le Portugal-France, où on pensait que tout allait être plié du coup en cette deuxième journée, bah, il revêt une importance assez capitale, quoi.
Une déception quand même, l'Espagne.
Oui, tu m'avais parlé de l'Espagne.
Ouais, oui, deux matchs à Séville, à domicile. Hein.
Ouais, deux matchs à domicile dans le nouveau stade olympique de Séville.
Bah oui, mais ça fait que deux points.
Ouais.
Ça fait que deux points.
Bah, cette Espagne, on la retrouve telle qu'on l'avait laissée en 2018, c'est-à-dire, alors sans les Ramos, sans les grands joueurs.
Convalescente.
Voilà, assez convalescente. Tu sais, l'Espagne a gagné. Alors moi, j'ai cette théorie-là. Je sais qu'avec certains auditeurs, on n'est pas d'accord, mais que l'Espagne, traditionnellement, c'est une équipe, c'est un pays de football de club.
Donc, on est d'accord.
C'est un pays qui, en sélection, a rarement gagné, à l'exception de la parenthèse enchantée 2008-2012.
Oui, qui était la génération dorée du football espagnol.
Du football espagnol, avec les réconciliations entre Castillon et Catalan. Donc en gros, c'était une équipe de 2008-2012 avec un moteur catalan et une carrosserie castillane, puisque tu avais gardien, c'était Casillas, tu avais Ramos en défense centrale. Mais c'était une sacrée équipe. Une équipe qui pratiquait en plus un football assez, assez magnifique quand même. C'est une des plus belles équipes qui a gagné, qui a gagné 3 titres en 4 ans. Donc c'est la parenthèse enchantée. Depuis, avec ce football un peu, tu sais, redoublement de passe assez rapide et ses milieux de terrain, donc Xavi, Iniesta, les joueurs qui ont marqué l'histoire du foot quand même. Depuis, tout simplement, il y a eu que les équipes ont trouvé la parade contre ce football-là.
Forcément.
Ce football de passe.
L'adversaire essaye de s'adapter, de trouver les solutions pour contrer ce football à une touche de balle, bien sûr.
C'est exactement ça. Et on se retrouve aujourd'hui avec une avec un football de référence. Si tu veux, les Espagnols continuent à jouer, un peu comme ça. Alors qu'aujourd'hui, le football de référence, c'est un peu ce que nous a montré Chelsea en Ligue des Champions, c'est-à-dire un football avec quand même une certaine athlétisation au milieu de terrain, avec un jeu beaucoup plus direct, des phases de transition très rapides. Ce que fait aussi la France, hein, c'est-à-dire qu'on balance devant sur Mbappé, ça va très vite, et on n'a plus le temps de préparer les actions.
On avait à un moment donné, quand il a fait une accélération foudroyante, contre l'Allemagne, quand il est parti, on a l'impression qu'on lui a mis une piqûre spéciale TGV. C'est phénoménal, ouais.
C'est exactement ça. Et du coup, ça, c'est un peu
oui, alors donc, tu suis un match en fil rouge, vas-y, je t'écoute.
Ouais, la Suisse qui a mis le deuxième but de Shaqiri, un but assez exceptionnel, hein, frappe en roulé lucarne, là, je le vois devant, c'est un petit régal pour les yeux.
Bon, alors, mes amis turcs, franchement, vous êtes vraiment la grosse déception de cet euro. Hein.
La cuillère de bois, comme on dirait au rugby.
La cuillère de bois. Oui.
Voilà. Et pour en venir à l'Espagne, après, bon, faut aussi voir que c'est pas une grande génération. Hein, donc c'est des bons joueurs tous individuellement, mais c'est pas une grosse génération. Et moi, je pense.
Parce que le Real et le Barça ne fournissent quasiment plus de joueurs aujourd'hui.
Ouais, bien sûr.
Moi, quand je regarde les joueurs, ça vient de l'Atlético de Madrid, Bilbao,
Séville,
Valence, mais du Real ou du Barça, il reste pas grand monde. Hein.
C'est ça. Et t'as pas Ramos qui a pas été retenu. Et après, c'est toujours pareil, mais. C'est l'impression que je me donne cette équipe d'Espagne, c'est une équipe finalement avec des bons joueurs techniques, mais assez lente, qui a pas des joueurs comme là la France, c'est-à-dire que des joueurs comme Kanté, comme Pogba, capables d'avoir une puissance aussi sur le plan athlétique, de courir beaucoup d'espace et en même temps d'être assez juste sur le plan technique. Et puis devant, t'as pas des finisseurs comme l'a eu l'Espagne avec Villa, Torres ou Raúl González du Real. Bon, même si lui n'a pas gagné pour le coup, mais c'est ce qui manque un peu à cette équipe. T'as l'impression d'une équipe qui joue un jeu un peu plan-plan, qui a pas d'âme, qui a pas de ressources et qui surtout n'a pas su se réinventer depuis ses titres. Quoi. Aujourd'hui, même tu prends un mec comme Guardiola qui a été un peu l'initiateur de ce nouveau football du grand Barça. C'est quand même un entraîneur qui à City s'est quand même adapté au football anglais et a quand même. Il y a quand même muté dans sa manière de voir les choses. Je sais pas si tu as vu Manchester City jouer, mais c'est plus direct, c'est plus physique aussi, c'est plus athlétique. Et même le Barça, le Real, ces équipes-là ne jouent plus comme la grande époque de l'Espagne, puisque tout simplement, ça y est, on a trouvé comment contrer ce jeu. Et donc, c'est un peu, là, comme tu as dit, la déception de cet euro, et on sait même pas si l'Espagne finalement va sortir du groupe. Hein.
Il reste un dernier match. Hein. Oui, alors. Tu suis toujours.
3-0 pour les Suisses. Ah non, c'est arrêté par le gardien.
Ok, d'accord. Et pendant ce temps-là également, la Gisca vient d'être cueillie à froid, puisque Coton Sport vient d'ouvrir le score. 1-0 pour les Camerounais. Le Coton Sport de Garoua mène 1-0 face à la JS Kabylie. But marqué il y a quelques instants, donc à peu près 1 à 2 minutes. Mm-hmm. Et pour les, on a dit pour la Suisse, c'est toujours 2-0 pour la Suisse face à la Turquie. Voilà. On est à la demi-heure de jeu. Je vous le rappelle, c'est le fil rouge de cette émission. Ces trois rencontres. D'abord, on l'a dit, la troisième journée déjà pour le premier groupe de cette Euro. Le reste des groupes suivra maintenant tous les jours. Hein. Je crois qu'on finira ces matchs à Sofiane vers mercredi, voire jeudi, je crois. Non,
ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Je sais que l'équipe de France joue mercredi.
C'est ça.
Donc joue mercredi, finit son groupe ce jour-là. Et je crois que le dernier match, c'est jeudi ou mercredi, quelque chose comme
ou
ça.
Ou mercredi. Ouais. Ouais. Ça veut dire qu'on va enchaîner directement avec les huitièmes de finale.
Voilà, c'est ça. Sachant que j'ai lu tout à l'heure un papier de nos confrères qui disait que en l'état actuel des choses, si les classements ne bougent pas, donc la France se retrouverait contre la Slovaquie, je crois.
D'accord.
Contre les Slovaques et ce serait un Angleterre-Portugal, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, non, c'est un Portugal-Belgique.
Ah ça c'est pas mal ça.
Parce que les Portugais sont troisième pour la
compétition. Oui.
Tu vois, donc ça ce serait les affiches pour l'instant à classement constant, donc on peut pas s'avancer puisqu'il va y avoir un troisième match, mais à l'instant T, c'est ça, parce que tu sais que c'est assez difficile à lire avec la règle du meilleur troisième. Avant, quand il y avait deux qui passaient en quart de finale, on savait que c'était le premier de A qui jouait le deuxième du B, c'était assez simple à lire.
Oui,
pour
oui.
Tout le monde.
Oui, le fameux système des croisés, quoi.
Ouais, voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Et là, avec l'histoire du meilleur troisième, on s'y retrouve plus. Donc, on va attendre sagement
carrément. Le dénouement. Parce que, aujourd'hui, même si nous connaissons, par exemple, dans ce groupe, on va dire ça veut dire que même la Suisse serait qualifiée parce qu'aujourd'hui, les Suisses, ils ont combien de points?
4 points.
4 points en ayant marqué aujourd'hui 2 buts. Ça veut dire que déjà leur goal average va être intéressant.
Ils retombent à moins 1 là. Ils repassent à moins 1.
Oui,
parce qu'ils avaient pris une claque contre l'Italie 3-0. Mmh. Mais ils étaient à 0, ils sont passés à moins 3. Là, ça fait moins 1. Et c'est pour ça qu'on voit que les Suisses, là, je regarde le match en même temps, ils font tout pour marquer le plus de buts possible, justement, parce que s'il y a une chance de se qualifier, c'est en passant avec un goal average intéressant, quoi.
Parce que pour l'instant, alors, 1, Italie, 2, Pays de Galles.
Hein. C'est ça. Voilà. Exactement.
Alors ça, c'est la première configuration. Alors ensuite, on avait aussi, toujours pendant cet Euro, quelques. Enfin, on attendait un peu mieux, mais bon, ça reste encore crispé. C'est notamment le cas de l'Angleterre. De l'Angleterre, oui.
Ouais. Oui, l'Angleterre, c'était. Angleterre, c'est un peu l'équipe qui a fait quatrième à la Coupe du Monde. Enfin, quatrième, ça ne veut rien dire, mais qui est en demi-finale. Ouais. Et qui a une équipe qui est sur le papier, bon, donc qui a placé deux clubs en finale de Ligue des Champions. Un club en finale de Ligue Europa qui a des joueurs d'une jeune génération qui est en train de pousser.
Ils sont pas mal, hein.
Qui sont pas mal. Donc, les Reece James, les Foden, les Sterling Mount, qui sont toujours là.
Oui, Mount.
Mason Mount, bien sûr. Harry Kane qui est toujours là, qui a 27 ans, en tout cas.
Oui. C'est le tollé de cette équipe anglaise.
Ouais. Exactement. Ouais. Qui a un gardien Pickford pour les Anglais, c'est assez inespéré.
Oui.
Avec aussi des. Tu vois, parce que les Anglais, en règle générale, en termes de gardien, c'est pas fou. Et donc, voilà, des joueurs de première ligue assez jeunes et une génération assez intéressante. Mais c'est vrai qu'ils, dans le jeu, n'a pas plus convaincu que ça. Alors, ils prennent les 3 points contre les Croates.
Surtout ça.
Voilà.
C'est cette victoire face à la Croatie qui leur permet aujourd'hui d'être vraiment.
En ballotage favorable.
En ballotage favorable pour cette qualif. Hein.
Bien sûr. C'est contre des Croates qui sont aussi, tu sais, en fin de vie. Enfin, en fin de vie, ils s'entendent qu'ils ont des joueurs, de très bons joueurs, mais qui sont.
Il n'y a pas encore un renouvellement de génération chez les Croates.
C'est exactement ça. Mais c'est un pays de 3 ou 4 millions d'habitants, la Croatie.
Oui, la réserve n'est pas énorme.
Voilà. Donc, pour renouveler, c'est pas comme le Brésil qui a 300 millions. Où,
ça fait penser à l'Uruguay en Amérique du Sud. Ils sont que 2 millions et puis ils ont du mal à renouveler, quoi.
Bah, c'est ça. L'Uruguay, en gros, c'est tous les 20 ans, t'as une grosse génération qui sort. Et les Croates, c'est un peu ça. Ils étaient très bon en 98, ils font demi-finale, ils reviennent en 2018 finale. Alors ça reste que c'est toujours un pays qui sort des bons footballeurs, traditionnellement de l'ex-Yougoslavie. Mais là, on voit Modric qui est encore un taulier de cette équipe, mais qui a quoi, 34, 35 ans. Donc c'est normal, hein, qui a fait finale de Coupe du Monde, donc le summum de leur carrière pour ces joueurs-là. Mais effectivement, il n'y a pas de renouvellement de génération. Donc les Anglais, c'était naturellement qu'ils ont gagné ce match 1-0. Et puis là, dans ce match contre les Écossais, qui ont encore une fois un gros derby avec une grosse rivalité historique, les Écossais n'ont rien lâché. Et même les Écossais auraient pu gagner le match. Hein.
Oui.
Effectivement, comme tu dis, les Anglais, sans forcément être décevants, ils laissent un goût, pardon, d'inachevé. Quoi. On ne sait pas. Moi, quand tu vois le matériel qu'ils ont, tu te demandes pourquoi est-ce que naturellement cette équipe-là n'impose pas plus dans le jeu. Quoi. Moi, c'est vrai que c'est une. Alors, est-ce que c'est le sélectionneur? Il y a beaucoup de critiques sur l'entraîneur, le sélectionneur Southgate.
Oui.
Ça et là. Mais c'est vrai que c'est un peu décevant. Je suis assez d'accord avec toi. Bon, ils vont quand même se qualifier. Ils vont quand même passer les poules. Alors, après, les Anglais, c'est toujours pareil. Hein. Tu sais, même si là, on a dit en préambule qu'ils avaient une grosse génération, les Anglais, ils ont toujours eu des belles générations avec des.
Mais qui ne va jamais au bout.
Qui ne va jamais au bout. À part 66, où on n'était pas nés pour le
moment. Et puis, je crois que l'euro qu'ils ont gagné chez eux, l'euro de 96, il me semble.
Ils le perdent, je crois, hein, contre les Allemands.
Oui. Ah oui, autant pour moi, oui.
Au pénalty.
Ouais. Non, je crois au but en or, non. Je me rappelle même.
Je crois que c'est au tir au but, mais je peux me tromper.
Ouais, si tu peux, le temps de tout à l'heure, à la pause pub, tu peux.
On pourra vérifier.
On pourra vérifier, mais je sais qu'il y a. Oui.
Bah, les Anglais, c'est quoi? C'est 66, Coupe du Monde, de chez eux.
Ouais, c'est ça.
C'est 90, demi-finale. Avec où ils perdent contre l'Argentine, je crois, si je ne me trompe pas.
L'Argentine qui est en finale après.
Voilà. Et depuis, ils ont fait 2018 Coupe du Monde où c'était un peu un retour. Mais c'est vrai que pareil, en sélection, c'est pas un peu un syndrome à l'espagnol. C'est un pays, l'Angleterre, très club.
Oui.
Donc tu as des grosses rivalités interclubs où ça s'affronte, etc. Mais en sélection, du coup, t'as une sélection qui a beaucoup moins gagné, tu vois. C'est l'inverse de la France, par exemple. La France qui a quand même, quand tu regardes les résultats de la sélection française, c'est deux Coupes du Monde, mais ils ont fait aussi une finale de l'Euro, ils ont des finales de Coupe du Monde 2006. En sélection, la France souvent est là, tu vois. Donc, mais qui a un championnat par rapport à ça, qui n'a pas un championnat avec des clubs forts, quoi.
Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi se méfier des Pays-Bas?
Les Hollandais, ouais, qui ont gagné leurs deux matchs. Alors on a regardé le match contre les Ukrainiens ensemble.
Tout à fait, oui, ils ont eu beaucoup de choses face à l'Ukraine.
Oui, exact. Ouais, bah, bon, ils ont eu pas mal d'occasions en première mi-temps. Le gardien ukrainien fait pas mal d'arrêts avant de se trouver en deuxième mi-temps.
C'est vrai.
Tu vois, oui. Alors c'est assez jeune, les Pays-Bas. C'est assez intéressant à regarder, que c'est pareil, c'est une équipe qui joue bien, qui est belle, qui est pas mal de joueurs de qui jouent aux Pays-Bas d'ailleurs, hein, pas mal de joueurs de l'Ajax notamment, puis avec certains tauliers d'autres clubs, hein, donc même Fils de Paille, Wijnaldum, le nouveau joueur de Paris. Oui. Et des joueurs qu'on connaît pas trop, comme là le Mathias Dumfries, là le
oui.
qui est latéral droit ou gauche, je sais plus, et qui est meilleur buteur, je crois, des Pays-Bas déjà.
C'est vrai qu'à chaque fois, aux Pays-Bas, il y a toujours des garçons comme ça qui sortent de l'ordinaire,
voilà.
Et qui réalisent une belle compétition majeure, comme l'est l'Euro aujourd'hui. On s'aperçoit que quand on regarde finalement Pays-Bas, Belgique, ce sont des nations où la plupart de leurs joueurs jouent à l'extérieur, ils ne sont pas dans leur championnat, puisqu'ils sont dans un niveau forcément en deçà. Tout à l'heure, quand on parlera de ces fameux droits de télé, on va expliquer le Big Four, et on va expliquer après le Big Four.
Exactement.
Parce qu'il faut arrêter de dire nous sommes dans le top 5, je crois que cette notion de top 5, il faudra bien la supprimer, et expliquer à nos auditeurs qu'il y a un Big Four des droits sur les grands championnats et ce qu'il y a en dessous. C'est-à-dire en dessous, tu retrouves Belgique, Pays-Bas, France,
Portugal,
par exemple. Voilà, tu es à ce niveau-là. On va marquer une seconde de pause, on se retrouve dans un instant. Et pour notamment, alors toujours dans le fil rouge de cette émission, je vous le rappelle, 38 minutes de jeu, 0 partout entre l'Italie et le Pays de Galles, 2-0 pour la Suisse face à la Turquie. Et Coton Sport qui mène devant la JSK 1-0, demi-finale aller de la Coupe de la CAF.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM.
Voilà, pardon, le temps que Sofiane et le coach arrivent, tout ça c'est du live. Alors je vous donne les résultats en direct puisque nous sommes dans ce qu'on appelle le fil rouge de cette émission. Après 43 minutes de jeu, l'Italie mène 1-0 devant le Pays de Galles, un but de Pessina. La Suisse bat la Turquie pour l'instant 2-0. Et à l'instant, la JSK Billy vient d'égaliser à Yaoundé face au Coton Sport, un but partout. Donc du coup, voilà, c'est une très très bonne nouvelle. Voilà, on est en train de vous donner vraiment tout ça en live. Et c'est ce qui nous permet d'ailleurs de vous faire vivre avec beaucoup d'intensité cette rencontre. Alors, Sofiane qui arrive, le coach aussi est arrivé. Mon cher Sofiane, je disais que l'évolution des scores fait que sur la première place, il n'y a pas de chamboulement. Ça y est, l'Italie, 3 matchs, 3 victoires pour l'instant, c'est 9 points. Allez, est-ce que ça n'en fait pas un favori aujourd'hui de cet Euro? Au vu de ce que l'équipe de Roberto Mancini nous montre quand même. Hein.
Alors, c'est vrai que dans le jeu, c'est une des équipes qui a le plus convaincu. Il faut voir aussi que c'est une équipe qui a joué 3 matchs chez elle à Rome, au Stade Olympique.
Les Allemands aussi. Hein.
Comme les Allemands qui font 3 matchs chez eux. Alors moi, je me garderais de dire ça dans le sens où c'est très rare une équipe en compétition internationale qui fait une phase de poule du tonnerre qui va au bout. En règle générale, je pense que c'est pas un vieux routard du foot que je vais apprendre ça. Souvent, les pays qui galèrent en phase de poule, c'est elles qui vont. On se rappelle du Portugal en 2016 qui a fait 3 points en 3 matchs et qui s'est retrouvé qui a gagné l'Euro. Tu vois, en finissant meilleur 3e. On se rappelle de l'Espagne 2010 qui gagne la Coupe du Monde en perdant son premier match et en se qualifiant avec 6 points et en gagnant quasiment tous ses matchs 1-0. On se rappelle de pas mal de cas, d'exemples, hein, où faire une phase de poule 9-9 et du tonnerre, ça ne garantit rien. Mais comme nous, on n'est pas des voyants, on est juste sur l'analyse technique de ce qu'on voit. C'est vrai que l'Italie, pour moi, c'est l'équipe qui montre le plus avec une jeune génération. Comme tu as dit, des joueurs qui viennent de clubs italiens, mais intermédiaires. L'Atalanta Bergame, la Sassuolo, Palerme un petit peu.
On va dire que ce sont des garçons qui ne vont pas chercher des soucis à Roberto Mancini. C'est un peu comme Deschamps quand il va chercher des joueurs, il va chercher un groupe. Et là, visiblement, l'entraîneur italien a trouvé un groupe.
Exactement, avec des joueurs quand même comme Barella, comme Locatelli, ouais. comme à Fiorentina, je crois.
Oui.
Comme on a vu Insigne, Berardi, des très bons joueurs, hein, tous des très bons joueurs individuellement. En tout cas, à coup sûr, ça fait de l'Italie un outsider. L'Italie qui partage avec l'Algérie le record d'invincibilité, je crois, depuis 25 matchs ou 26 matchs qui ne perd
l'Algérie, plus. L'Algérie, c'est 27 pour l'instant.
27 pour l'instant, l'Italie juste derrière, avec 27 aussi, je crois. 26.
Très bien. Donc, voilà. Alors, installe-toi, mon cher coach. Bienvenue. T'as été bronzé à la place de la République ou quoi, toi ?
Allô ?
Oui. Bronzé place de la République.
On était avec mon ami Mansel qui est là à côté de nous, là, qui est directeur sportif de La Rochelle.
Oui.
On était pour la commémoration d'un ami qui est décédé, Kamel Medjane. On était à Saint-Denis.
D'accord.
Et il y avait les internationaux, il y avait Moussa Saïb, il y avait Boudère, il y avait Nasser Bouich.
Ah oui, quand même.
Il y avait beaucoup de gens qui étaient venus pour commémorer le deuil d'un grand ami à moi qui est parti. Et voilà, on a passé l'après-midi avec ces gens-là, mais après, on a vu la circulation. T'as vu le confinement ? Mais va voir s'il y a le confinement sur la route. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est un truc de malade, de fou.
Il n'y a plus de couvre-feu, il n'y a plus rien. Donc maintenant.
Alhamdoulilah.
Maintenant le soir.
Oh, il ne faut pas te dire, allez, tu t'en vas.
Non, on va rester. Bon, on a pu analyser avec Sofiane cette première phase, on va dire, de l'Euro.
Ouais.
Juste un petit rappel, à savoir qu'aujourd'hui, Nasser, bon, on a fini les deuxièmes journées, on entame la troisième aujourd'hui. Le moins que l'on puisse dire, c'est que trois équipes pour l'instant se dégagent puisqu'elles sont qualifiées. On a parlé des Pays-Bas, de la Belgique et
de l'Italie.
Il y a des équipes qui sont derrière, qui sont quasiment qualifiées. Et puis, on a vu le Portugal qui a dévissé, mais l'Allemagne qui retrouve son football, l'Espagne qui déçoit. Enfin bref, ça veut dire que cet euro, est-ce que pour toi, réellement, il va commencer quand on va arriver à cette phase de match à élimination directe ? Assurer d'abord, et puis ensuite se donner.
Le problème, c'est que tu es dans une logique, là, actuellement, où il faut bien comprendre ce que c'est qu'un euro. Il y a une première phase qui est la phase préliminaire, qui est la phase de poule. Et on sait pertinemment, les gens du métier savent, qu'il ne faut pas être en forme, là. Tu peux pas être en forme pendant un mois. Tu peux pas avoir ton équipe au top pendant un mois. C'est pas possible. Ton équipe doit grandir et tu dois construire ton équipe dans la compétition. C'est-à-dire qu'à un moment, tu dois trouver ton équilibre, ton équipe. On a vu que la France l'a pas trouvé encore.
Ouais.
Parce que pour des raisons de il y a quand même des vraies raisons à expliquer ce qui se passe sur la France. C'est que, un, ils jouent l'Allemagne. Ils se sont préparés comme des monstres.
Oui, c'est ça. Ah, le match, il était, ouais. Ils ont fini cuit.
C'est exactement ça. Deux, tu payes sur un match comme la Hongrie où tout le monde, on a l'habitude de vouloir dire que la Hongrie, c'est pas un pays, mais la Hongrie, c'est l'un des plus grands pays au monde dans le football, des pays de l'Est. Les gens oublient qu'il y a un grand vécu dans ce pays-là.
Ouais.
Dans un stade archi-con, à 15h, 70 000 personnes qui sont comme des fous furieux.
Oui.
Comment tu veux? Tu sors un nul. Déjà, moi, je dis, c'est l'alhamdoulilah, je dis, c'est magnifique. T'es dans deux pièges. Ouais. La France a été jouée en Allemagne. Elle a battu les Allemands en Allemagne. Ouais. Ils ont été trouvés les petits détails. En fin de compte, en battant la main, ils ont été encore se gargariser ou s'inventer des situations qui n'existent pas. Et quand tu joues des Hongrois qui sont surmotivés, surchargés, qui sont comme des bêtes, qui défendent à 10 comme des chiens comment tu veux parler de Benzema? C'est pas le problème de Benzema. Bon,
non, mais Benzema, on lui a calculé les minutes. Maintenant, ça y est, Benzema, à chaque match, on commence on prend le chronomètre. Allez, combien? 1200 minutes? Allez, à partir de maintenant. La minute suivante. En fait, on est comme ça. On est en train de lui compter les minutes où il marque pas. Voilà.
Ouais,
comme si dans le jeu, pourtant il contribue. On le voit bien. Après, psychologiquement, ça doit le travailler. Quand l'attaquant, ça doit marquer Nasser. L'attaquant, c'est un attaquant. Il faut qu'il marque.
Oui, mais quand vous faites des raccourcis comme ça dans le football, c'est facile. L'attaquant, il doit marquer, l'ailier, il doit centrer, l'arrière, il doit défendre. Déjà qu'il s'occupe déjà du. Après, on parle de l'équilibre et de l'équilibre d'équipe. Ce que c'est qu'un équilibre, c'est-à-dire quand ton équipe arrive à trouver le juste milieu entre son aspect défensif et son aspect offensif. Et tu crées un pourcentage dans cette équipe-là. C'est-à-dire, est-ce que ton équipe défend bien et elle contre-attaque bien? Ou quand elle est dans des attaques placées, est-ce que son jeu, ses ballons vont au bout? Tu vois bien que le ballon ne va jamais au bout. Parce que, un, sur les plans défensifs, tes latéraux sont pas bons du tout. Deux, tu donnes la possession de jeu à des garçons comme Varane et Kimpembe, qui pour moi sont des bons défenseurs, mais qui dans la relance ne sont nulle part. C'est pas les Laurent Blanc d'il y a 10 ans, faut pas oublier. Ensuite, tu as le milieu de terrain où tu as Kanté qui fait un travail monstrueux tout seul et Pogba qui est un peu en dessous.
Oui, c'est le dernier
oui, en parler. Oui, tu as Rabiot aussi qui était surévalué comme d'habitude.
Bien sûr.
Et qui aujourd'hui se rend compte que tu passes pas contre des équipes comme ça. Tu ne passes pas contre la Hongrie chez elle, à domicile, les Allemands chez eux. C'est compliqué. Après, tu te demandes pourquoi Benzema, qui est le dernier joueur en pointe, pourquoi il joue pas? Il a des ballons, il reçoit des ballons, il reçoit des ballons, très peu de ballons, il est obligé de descendre à 45 mètres pour aller se construire un petit peu, trouver une situation qui est pas son avantage. Après, dire, voilà, il va marquer. Oui, mais moi, j'ai pas vu, il a eu une occasion, ouais, il les a.
Oui, oui, oui.
Après, s'il fait du 100% d'efficacité, on va dire Benzema, c'est top. Mais comme t'es en France et que t'es dans une culture où c'est toujours, on est dans la critique, on n'est pas dans le positif. Tu as vu les Allemands, après le match de l'Allemagne, t'as Lowe qui a été défoncé par la presse en disant que c'est un scandale, le schéma tactique et tout. Lui, il a fait le match, deuxième match, il a remis les mêmes joueurs. Et les mêmes joueurs ont montré un autre visage. Demain, si la France bat le Portugal, et là, on va avoir l'impression qu'on est. Faut pas oublier qu'en 2018, quand l'équipe de France gagne la Coupe du Monde, elle le gagne sur des à-coups, sur des coups, sur des coups de pied arrêtés, sur des têtes de Varane, sur des têtes de Umtiti, sur des coups francs de Griezmann, où il fait passer le match.
Et à chaque match, il y a un arrêt déterminant de Loris.
Tout à fait.
Pour chaque match.
Oui, bien sûr.
Sur chaque match, il fait l'arrêt, comme tu l'as toujours dit, le 1, c'est le 1.
Et n'oublie pas que et pour résumer le tout, il n'y a aucune équipe dans toutes les compétitions européennes et mondiales qui étaient dans le groupe de la mort qui ont gagné ça. Jamais. Parce que la France a été obligée d'être au taquet lors du premier match. Vraiment, pour être au taquet. Ah oui. Et on a vu sur le deuxième match qui était cuit, Pogba. Il n'avait pas encore récupéré. Et en sachant que tu vas rentrer dans les huitièmes de finale derrière.
Ouais.
C'est-à-dire que tu vas te dire. Et en plus, j'ai un match du Portugal à assurer. Ça veut dire qu'ils sont taqués tout le temps.
Ouais.
Donc, à un moment, tu verras que huitième ou quart ou demi, tu verras qu'à un moment, ça passera pas. Parce que tu n'auras pas la fraîcheur. Et on sait que la fraîcheur physique dans les compétitions internationales, c'est la chose la plus importante. La fraîcheur physique, c'est que des joueurs qui arrivent avec l'envie de jouer. Et pas des joueurs qui arrivent à reculons parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ont encore des coups de l'autre fois. Mais si tu changes lui, j'écoutais encore les spécialistes de la radio qui disaient, ouais, faut changer, mais qu'est-ce que tu vas changer quoi? Tu changes quoi? Ton équipe de France, elle est là, elle est en place. Maintenant, il faut trouver l'équilibre d'un joueur ou deux dans un placement où il faut modifier. Mais tu peux pas faire jouer. Giroud, il a pas joué 10 mois, ou 8 mois, il a pas joué, il était sur le banc pendant 8 mois. Tu veux jouer en équipe de France, titulaire? Mais c'est Benzema. Non, mais tu te rends compte, j'en suis à entendre des phrases. Mais bon, après.
Tu as créé la polémique, on est en France.
Voilà, c'est
bien. La polémique fait partie du jeu.
Oui, c'est
la règle du jeu aujourd'hui.
Je suis d'accord avec toi. Voilà, tu as employé le mot juste. La polémique, c'est la règle du jeu. Mais moi, je ne rentre pas dans ces polémiques-là. Moi, je regarde son. Il faut laisser encore un petit peu à Benzema, là, qu'il puisse un moment. Ouais. Parce qu'il se met la pression aussi sur lui beaucoup.
Je pense. Ouais.
Et je pense qu'à un moment, il faut que lui, il arrive à trouver l'équilibre pour qu'il en mette un ou deux. Ouais. Pour qu'après, ça se lâche. Après,
ah oui, non, mais.
Bah arrêtez de me comparer Griezmann avec Benzema, s'il te plaît, arrêtez.
Bah c'est pas les.
Ou avec Zidane.
Non, mais attends, ils ont pas le même profil de jeu, déjà.
Mais c'est pas les mêmes joueurs du tout.
Ah oui.
Ça n'a pas le même niveau, ni la même fonction. Oui. Du tout. Mais après, tu es dans un délire où tu entends tout et n'importe quoi. La France a fait un nul, elle est première, deuxième journée, elle est première. Qu'est-ce que tu veux de plus? Après, t'as sur ton match du Portugal, tu fais un nul ou tu fais une victoire et tu passes. En sachant que même les Portugais, de toute façon, tu vas voir le troisième match qu'ils vont te faire.
Ils vont pas faire le même match, c'est sûr,
genre,
bien sûr.
Parce que les gens ont toujours des constats de ce qui s'est passé avant. Il n'y en a aucun qui te prédit. Si j'ai entendu un mec qui a dit, oh la France, avec la défense qu'ils ont, le Portugais, tu vas remettre 3-0 au Portugais, toi.
Bah, faut se rappeler aussi, Nasser, qu'en 2018, la France, quand elle gagne la Coupe du Monde, dans l'équipe, t'as des joueurs qui sont pas là, c'est en 2021, là. Genre Matuidi, par exemple, et qui est très important dans l'équilibre de l'équipe, notamment. Tu te rappelles-toi l'attelage des trois, Matuidi, Kanté, Pogba. Il n'y a pas Rabiot, c'était Matuidi qui jouait à sa place. Ça donnait une autre force à l'équipe. Sur les côtés, comme tu parlais des latéraux, les latéraux dans le football moderne, c'est super important. C'est quasiment des meneurs de jeu. Venant de jeu sur les côtés. Et c'est vrai qu'en équipe de France, t'as pas ces joueurs-là qui. Enfin, moi, j'ai pas vu un centre correct depuis que.
Le problème, c'est.
C'est bon, on arrive à la fin de cette première heure. L'émission passe très très vite. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite avec notamment l'intervention de coach sur YouTube que j'ai suivi avant-hier. Oui, il va être surpris. Et puis, il y a d'autres choses également à vous donner, notamment le fil rouge de ces trois matchs aujourd'hui, dont. Le match Coton Sport JS4, un partout pour Alamito.
18h, 20h, Fou de Sport. Avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Et oui, durant cette deuxième heure, en compagnie du coach, et puis donc d'un ami qui nous vient de La Rochelle, il s'appelle Monsef, que je salue. Bienvenue dans les studios de Beur FM. De toute façon, on aura aussi l'occasion tout à l'heure de passer un petit mot et si tu prépares cette fameuse rencontre pour les 50 ans du club de La Rochelle avec une sélection d'anciens d'Algérie, et nous en ferons la promotion. C'est une certitude, et puisque la radio, c'est aussi, elle est aussi liée à toute cette immigration d'origine algérienne qui s'invite souvent sur nos plateaux. Alors, juste un petit rappel sur le fameux fil rouge dont on a parlé il y a quelques instants. Mi-temps, Coton Sport, JSK, mi-partout, Suisse, Turquie 2-0 et Italie, Pays de Galles 1-0. Avant de prendre aussi Malik du côté du téléphone, alors coach, je reviens vers toi. Oui. Cette interview, parce que avec Karim, c'est un youtubeur de la JSK, il a beaucoup parlé du club et j'ai vu qu'à un moment donné, tu l'as parlé de cette préparation physique. On a l'impression que les joueurs, forcément, manquent, on va dire, de grosses préparations. Et que quand tu joues des compétitions majeures, ben, parfois tu flanches. Et qu'aujourd'hui, dans ce qu'il y a aujourd'hui à la JSK, la vanille fait de son mieux, il fait même du bon boulot. Et on va dire, il n'a pas tous les éléments entre les mains.
Oui, mais c'est pas une nouvelle pour tout le monde.
Oui, mais on le sait bien.
On sait pertinemment que la préparation physique, même dans le Maghreb, puisque j'étais au Maroc et j'ai vu que c'était à peu près la même chose, c'est que les joueurs rechignent à ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles méthodes sur l'aspect physique où on fait travailler beaucoup les joueurs avec ballon. Mais derrière le ballon, il y a toujours l'aspect physique, tu vois, avec vraiment des exercices et des jeux qui permettent réellement de répondre aux exigences du haut niveau. Mais nous, on le voit que, voilà, moi, je parle de formation, je parle des 9 ans, et même 8 ans, 18 ans, je parle de ces 10 années-là où il n'y a rien qui est fait. Comme j'expliquais à ce monsieur-là, M. Karim, je lui expliquais quand tu as des mecs qui n'ont pas fait de sport. Qu'on pas fait de sport ou qu'on fait des petits clubs comme ça et qui se retrouvent parachutés dans un grand club de Ligue 1 en Algérie. Le mec, je sais pas, on l'a vu comme ça sur un terrain. Ah, il bouge, il joue bien. Mais il s'est jamais entraîné. Il n'est pas passé par l'école de football. Il n'est pas passé par la formation, la pré-formation, la formation et la post-formation.
Tu as sorti un mot quand tu lui as dit le football est un métier.
Ah oui.
Ah oui. Ça, j'ai retenu cette phrase.
Ah oui, bien sûr que c'est un métier. C'est plus qu'un métier même. Être footballeur aujourd'hui, c'est un métier. Ça demande une prise en charge H24. Quand tu vois les joueurs d'aujourd'hui, regarde un peu l'aspect physique des joueurs. Regarde aujourd'hui, combien de joueurs qui tombent avec des crampes. C'est la première fois que je vois ça. Dû à la saison qu'ils ont faite avec le Covid et tout ce qu'on suit, là ils arrivent dans des conditions de jeu encore extrêmes et les mecs comment ils répondent, rien d'intensité quand même des matchs qu'il y a. Ah, tu te dis quand même, et c'est des mecs qui ont fait 70 matchs. Hein.
C'est ça.
Nous en Algérie on a fait combien? 30 matchs.
Ah, ça va.
Voilà. 30 matchs, il est titulaire le mec.
Oui.
S'il en fait 20,
oui.
Voilà.
Donc, s'il est remplacé, etc.
Et ben, l'état des lieux, il est là. L'état des lieux, c'est que tu te dis, voilà, sur le plan sportif de haut niveau, après on peut penser que la science fait des avancées énormes et que nous on n'en profite pas. C'est-à-dire le seul qui ne profite pas, c'est les pays du Maghreb. Peut-être la Tunisie encore, ils commencent à s'y mettre. Mais nous, on est loin de penser que la vidéo, la prise en charge du sommeil, des prises en charge médicales, la prise en charge culinaire, ce que tu manges, qu'est-ce que tu fais, ton sommeil. On n'est nulle part, nous. Les mecs, ils viennent comme dans. Il y a 30 piges. Ils sont là, ils viennent. Et je te dirais, parce que je parlais avec Nasser Bouche, là, oui. Quand eux, ils y étaient en 80, moi, je parle de 86.
Nasser Bouche, c'est une bonne génération.
Ah oui, oui, oui. Non, mais c'était déjà à la pointe aussi, là.
Ah, oui, oui.
T'avais
comment s'appelle
Zivotko.
Ouais.
Zivotko
ouais,
qui est là-bas, mais la prise en charge des joueurs, du sommeil, mais c'était déjà du top niveau. Et là, aujourd'hui, on a l'impression, on a affaire à des affairistes qui prennent les clubs et qui, eux, n'ont rien à foutre, ce que disait Slimane, on était ensemble.
Oui.
Mais Nasser, il pense qu'à l'argent, là-bas. Ils s'en foutent du projet, ce que tu dis, ce que tu veux. Mais j'ai Mohamed, si tu veux de la compétence, si tu veux construire une équipe, un club, il faut que tu mettes un projet en place. Qu'est-ce que tu. Comment tu. Il me fait non, il s'en tape. Il dit bon, il attend juste la subvention qui tombe.
À un moment donné, cette subvention-là, il va falloir la contrôler. Parce
voilà.
Que, ben, le jour où. Moi, je l'ai toujours dit, le jour où la justice va mettre son nez.
Mais ce serait dans le football, ouais.
Et oui. Mais
qu'ils attendent
oui.
Qu'est-ce qu'ils attendent?
Parce que si la justice met son nez dans les affaires du football.
Ouais.
Ben, il va y avoir du grabuge.
Oui, mais pas, parce que c'est à la paix sociale.
Ah, voilà.
Si tu touches à ça, tu touches à la paix sociale.
Je suis d'accord, la paix sociale. Mais à un moment donné, le footballeur, il reste combien de mois sans être payé?
Oui, 12 mois.
T'as parlé des problèmes de salaire, ouais.
Amroun, le talent, il m'a dit autre chose tout à l'heure. Moi, je vais le rectifier là, parce que j'ai confirmation tout à l'heure. 12 mois. le capitaine de la GS Cameroun, oui. 12 mois, il n'est pas payé. Il touche des primes, les primes, il touche là. Salaire, 12 mois, un an.
On leur verse des primes, oui.
Des primes de match.
Ouais. Le mec, footballeur, c'est un métier.
Ouais.
Donc, tu as une fiche de paye.
C'est son salaire. C'est...
Ouais.
Sauf les fameux clubs qui ont des... Je reviens à ce que j'expliquais. J'ai dit oui, mais bon, nous, il faut arrêter d'être sur les gris. Il faut aller négocier avec l'État, avec les gens, pour que tu puisses avoir un gros sponsor. Il faut arrêter de mettre le doigt. Oui, ils n'aiment pas les Kabyles, ils n'aiment pas ça. Non, non, on va enlever tout ça. C'est bon, tout ça, c'est bon. Allez, on a passé tout ça. Il faut aller voir les... T'as un grand stade qui s'ouvre. T'as un stade. Tu te rends compte de la gestion d'un stade.
Il est à l'abandon, hein.
Oui.
Ouais, il est à l'abandon. De... Ben oui, parce que celui qui avait le contrat, il est en prison. C'est Ali Haddad.
Oui.
Bah, son entreprise, elle est en faillite.
Entreprise, pas pris l'autre.
Pour l'instant, il n'y a pas de reprise. Et le stade, il commence à partir. Attention, hein. Ça, la nature, c'est quand la nature, elle reprend le dessus, il peut partir en décrépitude à une vitesse phénoménale.
On voit l'étoile d'araignée arriver.
Ouais, ouais, exactement.
Mais au bout de 20 piges, ça fait 21 ans.
Ouais, ouais.
Bref. Et c'est pour t'expliquer que voilà, il faut que tu mettes les gens compétents. On va arrêter d'expliquer compétents, ceux qui ont un savoir-faire. Qui viennent se mettre, qui viennent le mettre en pratique avec ces gens qui sont dans des clubs et qui eux ne font que parler aux télé, aux radios, et pour nous expliquer l'inexplicable. Et c'est ça aussi le football qui est lié à l'Algérie, qui est lié qu'aujourd'hui tu n'as plus aucun local qui est dans en équipe nationale. Voilà le résultat. Le vrai résultat, c'est ça.
Hein. Après, écoute Nasser, on a essayé de me faire vendre le match inaugural au Stade d'Oran. Voilà, un stade magnifique.
Ouais.
Mais attention, hein. Dont les travaux à l'extérieur ne sont pas finis. C'est une précision de taille. Ça veut dire que normalement, le stade n'aurait jamais dû être inauguré de cette manière.
Mm-hmm.
Bon, on l'a fait. Malich, on a vu une belle pelouse, tout ça. Le stade, tu le vois.
J'ai pas vu, ouais.
C'est un bon petit bijou quand même.
Ouais, ouais,
ouais. Ouais, c'est beau, franchement, c'est un beau bijou.
Et puis l'athlétisme, c'est pas bon.
Ouais. Mais ça, on
a. C'est chien qui va te dire ça.
Mais ça, on l'a toujours pas compris. Ouais. C'est le jour où on comprendra que la piste d'athlétisme est inutile, peut-être qu'on ferait quelque chose. Mais
c'est clair.
Moi, ce qui m'a le plus marqué, après, on dit, ouais, t'as vu, on a battu le Liberia 5-1, c'est l'équipe 1. Mais attends, j'ai regardé les défenseurs du Liberia, j'ai regardé les gardiens de but, Nasser. Ah, j'étais mort de rire. Hein.
C'est ça. Ah, voilà, bon. voilà de quoi on se nourrit.
Oui, oui. Après, bon, il y a le petit Amoura de Sétif, oui, il a marqué 4 buts, mais bon, c'est. Peut-être que c'est un garçon qui peut rejoindre le groupe de Belmadi. Enfin, comme tu l'as dit, Nasser, toujours pour. S'imprégner du groupe pro, du vrai groupe pro, quoi. Voir comment ils sont, ces gens-là.
Mais pas c'est que le mec de City qui joue, il va jouer avec Mahrez qui est à Manchester City. Mais t'imagines l'écart?
Oui, oui. Non, j'ose même pas le dire.
On est là-dessus. Bah, le grand discours. Après, c'est des choses qu'on dit, qu'on redit, mais c'est vrai qu'il faut répéter.
Oui.
Oui, parce que la formation en Algérie, elle est la plus grosse scandale qui existe. C'est honteux. Je parle pas peut-être des dirigeants, je parle des techniciens, des gens qui sont porteurs de leur projet.
Ouais.
Et tu rends compte que même dans des clubs là, peut-être Sétif a fait un petit travail depuis quelques années là,
oui,
qui
oui.
marche. Paradou fait un petit boulot là, mais bon, comme eux ils vendent.
Et d'ailleurs même non, mais de toute façon Boudaoui l'avait déclaré. Hein.
Ouais.
Il a dit. Hein. Il a dit moi quand je suis arrivé en France, surtout à Nice,
bah,
il a découvert le travail physique.
C'est ça.
Pour ça qu'à un moment il a eu du mal à émerger le garçon.
Bien sûr, bah oui, il a cru.
Parce que les blessures à répétition, bah,
il y a Tal
aussi. Voilà, donc est-ce qu'on est surpris? La réponse est non. On leur donne le ballon, mais on oublie ce qui fait la force d'un club ou d'une nation. Bah, c'est la solidité de ces athlètes. Là, ils ne sont pas solides.
Tant qu'on n'aura pas défini ce qu'est un athlète de haut niveau en Algérie, en sachant qu'ils ont quand même un vécu. Hein. Tous les grands athlètes que j'ai pu connaître en Algérie, ils parlent des préparations qu'ils ont vécues avec les Russes, avec les Cubains, à Cuba... qu'ils ont vécu à Moscou, qu'on était voir, ils t'expliquent le boulot qu'ils ont fait. Quand tu vois aujourd'hui ce qu'il y a, ce qu'ils te disent, ah, tu dis non, ah non, faut arrêter les gars, vous délirez ou quoi? Vous croyez que les joueurs de haut niveau qui sont en Europe, là, ils se préparent pas? T'as vu l'équipe de France 15 jours?
Ouais.
Ils ont fait une charge de travail de 12 séances où ils les ont défoncés, ils les ont ramenés. Ben là, tu vois quand même l'équipe de France, quand même, dans le rythme, elle est là, hein.
Oui.
Elle bouge pas, hein. Et comment tu vas expliquer ça à des gens qui te regardent, ils vont dire oui, oui, ou ils vont écouter ce que tu vas dire, ils vont prendre une note. Non, c'est pas ça, monsieur. Ça commence par la formation en bas. L'athlète, tu prépares, le petit jeune, là, tu te prépares pour devenir un athlète de haut niveau. Pas un boulanger ou un pâtissier, c'est pour être un athlète de haut niveau. Déjà, faut que tu aies de la détection en place, faut que tu mettes en place, ensuite, faut les réunir dans des groupes de pôles, dans les pôles espoir. Tu mets le travail en place, après ces pôles-là, tu revends ces joueurs-là, tu revends. Ils repartent dans des grands clubs qui ont une vraie formation pour finir.
Forcément que les affairistes qui dirigent les clubs ne veulent pas de ce travail.
T'as tout compris. Voilà.
Non, bien sûr. Ils sont là, mais ils croient qu'en vendant un joueur, mais d'ailleurs, la plupart des joueurs, ils les vendent où? Bah, en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats, en Tunisie, comme bouche-trou, parce qu'il voilà, n'y a pas assez de footballeurs voilà. En Tunisie, il faut appeler
ça.
Par leur nom. Donc, tu me dis aujourd'hui, ah oui, ils jouent dans tel pays. Mais dis-moi, ce que tu as exporté en Europe et qui ont réussi dès le départ. Non, il leur a fallu au minimum 3 ans pour s'imposer.
C'est très bien. Ben, c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'il faut pour que tu puisses être au niveau. Parce que c'est compliqué, mais d'expliquer dans une salle de radio et d'expliquer aux gens ce qu'est l'entraînement, je dis aux gens, amène-moi ton joueur et qu'il vienne faire 12 séances par semaine pendant des années. Tu vas voir comment on va formater pas un corps physique ou un corps mental comme ça avec des discours. C'est un état d'esprit, c'est le club, c'est la structure du club, c'est le centre de formation, c'est la formation à l'intérieur, perpétuelle, l'école, le suivi médical, qui fait qu'à la fin, t'as un Boudaoui qui ne se blessera pas, oui. Un Attal ne se blessera jamais, rarement on va dire. Ouais. Aujourd'hui, t'as rarement des blessures de joueurs de haut niveau qui se pètent, quand c'est exceptionnel. Et nous, on en est encore à ça, en train de dire, oui, on va faire, ou comme je dis, on va être sur les plateaux télé, et t'as le mec, ah non, le joueur algérien, il mérite de jouer où? Le Libéria.
Oui.
N'oublie pas qu'il y a un an, l'Algérie a joué le Maroc pour la Coupe, je sais plus, pour les JO, plus quoi. On s'est fait détruire 3-0. Mmh. On a pris 3-0 par les Marocains. Avec Batelli, c'est ça l'entraîneur.
Oui, oui.
Voilà, pas oublier ça, hein, au cas où tu oublies. Moi, je vais te rappeler que voilà. Et donc, tu fais une sélection de ce que tu veux, tu réponds pas. Tu réponds pas à l'exigence qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un championnat d'Europe, regarde ce qui se passe, regarde l'intensité. Dis à tes mecs qui mettent les micros et qui regardent un peu les courses des joueurs à ce niveau-là. Mm-hmm. Si t'as pas les joueurs algériens de l'immigration qui viennent là, oui. Qui font le boulot, oui. Eh ben t'auras rien, t'as pas de champion d'Afrique, t'as rien du tout, mon pote.
Mais Nasser, cette polémique, elle existe uniquement chez nous, parce que je vois au Maroc, quand Vaïd Ali Doudzik sélectionne les joueurs du Maroc, et on va pas lui dire, oui, pourquoi t'as pas ramené des joueurs locaux? Mais là, on prend un ou deux si c'est utile.
Et en plus,
les clubs marocains, ils sont souvent dans le dernier carré des coupes africaines.
Tout à fait. Et en plus, t'as le Raja qui gagne la Coupe d'Afrique, la Ligue des Champions.
Et les locaux marocains qui ont gagné deux fois de suite le CHAN.
Ah, bah oui. Et qui gagnent la Ligue des Champions à chaque fois.
Oui, voilà. Je me pose des questions aussi.
Quand t'as ce niveau de joueur-là, tu dis OK. Ouais. Tu dis OK, j'accepte. Si t'as pas ce niveau-là, tu peux me dire ce que tu veux derrière. Après, tu vas pas prendre l'exemple avec eux parce que. Après, le Maroc, ils ont une DTN, au moins
oui,
une DTN.
Oui.
Ils ont les gens qui travaillent, qui essayent de travailler conjointement avec la France.
Oui.
Après,
oui.
Moi, j'ai dit, je n'ai pas la culture française pour pouvoir travailler comme travaillent les Français.
Bien sûr.
Moi, je vois, je suis en formation, donc je suis mm-hmm. tous les jours. Je vois qu'il y a du travail. J'ai dit, mais pour des joueurs algériens, pour des entraîneurs algériens, ce n'est pas ça qu'il faut. Nous, on est sur un autre registre. Par contre, le cadre, il faut le prendre.
Oui.
Le cadre de sécurité, ce qu'il faut inculquer à l'entraîneur, le cadre de travail. Après, le contenu, c'est toi qui le mets. Et nous, aujourd'hui, on ne le voit pas, Après, faut avoir une vraie discussion avec le président, j'espère un jour on l'aura, pour lui expliquer que voilà, il faut mettre le paquet sur la formation en Algérie, mais vraiment le paquet. Tant que tu mets le paquet sur l'argent, et que l'argent il vient de l'État, eh ben voilà, t'as ce qui se passe là. T'es mort.
En fait, oui, c'est ça. Tant que les finances des clubs proviennent uniquement de l'État, bah, ça ne peut pas avancer.
C'est ça.
Oui. Il faut des gens qui ont les moyens
privés
qui arrivent pour investir dans un projet.
C'est exactement ça.
Voilà. Mais aujourd'hui, le projet n'existe pas.
Et parce qu'ils savent qu'il y a ce qu'il y a en face d'eux.
Oui.
C'est compliqué. Il va falloir du temps, beaucoup de temps pour changer les mentalités, changer les trucs. En plus, c'est tout un circuit. Hein. C'est un circuit qui marche. Hein. Oui. Les managers, les joueurs, les trucs.
C'est ça, oui.
Tout ça, ça fonctionne et toi, tu es là, t'attends.
Ouais,
après, le mec dit, il faut gagner, il faut être champion. Ah, on va être champion.
Bah, on te fait vendre un rêve. C'est vrai. Bon, j'ai l'impression. Alors, dans ce studio, nous sommes tous quasiment en manches courtes, mais quand on regarde l'extérieur, je risque de me retrouver tout à l'heure comme un canard. Allez, une pause, et juste après, je prends Malik, c'est promis. Juste avant celle-ci, à nouveau, le cours du résultat. Un carton rouge pour les Gallois, mon cher Sofiane, mais l'Italie mène toujours 1-0. On est à la 57e minute de jeu. La Suisse, toujours 2-0 face à la Turquie. Les Turcs, grosse déception de 7 euros. Et après 52 minutes également, Coton Sport JSK, un but partout. On se retrouve dans quelques minutes.
Foot de sport, revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Foot de sport sur Beurre FM.
Bon, allez, on va prendre notre Malik, parce que tu sais ce qu'il est solidarié. Il a eu du mal à rentrer, hein, tu sais, avec aujourd'hui ce fameux déconfinement. Donc les gens se sont libérés, c'est ici.
C'est ça.
Pauvres.
Mais c'est, j'ai vu ça sur la route, moi.
Ah, tu t'es rendu compte.
Ah, si,
bonsoir,
sont
Malik.
Sont
sortis, bah, bonsoir, Mohamed Nasser et Sofiane avec le nouveau de ramener là, La Rochelle.
Ouais, alors, le nouveau, il vient de La Rochelle. Oui, oui, il s'appelle Monsef.
C'est un joueur, non, c'est un rugby, non, c'est un footballeur.
T'as eu le rugby,
ouais.
Tout de suite.
Un rugby.
Bah oui, parce que La Rochelle, elle est connue pour son rugby, c'est vrai.
Monsef, oui, il a la chance d'un quartier.
Bien sûr, je connais. Voilà. Il y a quelqu'un ici à Pau de Saint-Ouen, il y a le rugby, toujours son café, les plans. Et tout ça, il est de chez toi, Makuda.
Ah oui, hein, bah c'est vrai qu'il est pas loin chez moi. Oui, il est à 20 bornes.
Il y a seulement des Français. Dedans, dans son café, il est réservé.
Ah oui, hein.
Il ne peut pas rentrer. Ah oui. À rugby, à côté de métropole de Saint-Ouen.
D'accord, très bien, voilà.
Voilà, ça s'appelle Majid et tout ça.
Ah, bah,
il est de Makuda.
Majid, voilà. qui préfère diviser que le rugby. Ouais. Vas-y, alors qu'est-ce que tu as à dire à Malik?
Je te parle des joueurs algériens, là. Ils ont marqué contre Libéria 5-1.
Oui, oui, bah oui, on l'a vu.
On l'a vu. Majid Bougara, il est en train de faire une équipe bien. Voilà, c'est bien. Je m'a dit, il était, regardez, je vois.
Oui, il était sur place, c'est vrai, j'ai vu, ouais.
Sur place. Et il a supervisé Amouram, Alim Saoud, Bachib Doumi. Moi, je ne vois pas, il est jeune encore, Bachib Doumi, le fils de Doumi, moi. Moi, je ne vois pas, autant pas. Qu'est-ce que tu penses?
Bah écoute, pour l'instant, c'est une nouvelle génération qui arrive, parce qu'ils sont très jeunes. Voilà. Oui, voilà.
Amoura, il peut Amoura. Amoura,
oui.
Amoura, il est bien, tout ça. Avec un Adam Zorgan, un petit peu. Je pas vu un beaucoup.
Hein. Parce que la plupart des joueurs aujourd'hui là, qui arrivent, ils viennent de Sétif. Hein.
Oui, de Sétif, de Paradou.
Juste une parenthèse que... Attends, Malik. Hein. La Turquie a réduit le score, effectivement, hein, 2-1 pour la Suisse.
Qui a vu assez exceptionnel.
Ouais. Ah, la Turquie, ils sont partis, hein, c'est fini, la Turquie, à moi, ils sont morts, les Turcs. C'est fini.
Ouais.
C'est fini.
De toute façon, oui, pour l'instant, oui.
Il y a, comment ça s'appelle, l'Espagne et tout ça. Voilà. Ouais.
Allez, continue, voilà. Malik.
Quand je te dis, Mohamed, il est obligé de, comme dit Nasser, c'est obligé de chercher des joueurs de migration, on n'a pas le choix.
Et bien sûr.
Voilà. Parce que, il n'y a pas de formation. C'est comme ça, on va rester comme ça. On fait du bricolage. Comment du bricolage? Obligé de jouer. Maintenant, il n'a pas le choix. Il faut qu'il appelle Aligori. Je ne sais pas s'il va venir pour l'équipe.
Ce garçon, c'est un peu compliqué. Non, Malik, par rapport à Amine Gouiri, pour l'instant, c'est un peu compliqué.
Oui.
Lui, alors, il attend encore Amine Gouiri. Il attend l'équipe de France. Tu sais, avec quoi? C'est par rapport aux Jeux Olympiques à Tokyo.
Voilà,
je pense que il prendra une décision après les Jeux Olympiques de Tokyo, pas maintenant.
Il a quel âge, Giroud?
Giroud,
c'est un 86, il a 35.
Ouais. 35. Ouais. Il a quel âge, Benzema?
33.
Ouais.
Il va sur 33.
Ouais.
T'as compris?
Oui.
Voilà. Donc dans les deux ans, la place va se libérer.
Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'Amine Gouiri attend le projet équipe de France. Il a fait les espoirs. Il pourra faire les Jeux Olympiques également avec eux, là au Japon.
Il a quel âge, Amine Gouiri?
21 ans ou 22 ans.
Très jeune, ouais.
Très très jeune, hein,
citez-moi 5 avant-centre français là, dans la jeune génération qui ont cassé la baraque.
Il n'y a que lui qui a fait une excellente saison avec
ses
C'est tout.
Buteur et passeur Nasser.
Non, mais je l'ai vu, j'ai vu en plus ses buts.
Ah oui.
C'est des vrais buts, c'est pas les buts à la Giroud, tu mets un plat de pied dans la ligne de but.
Il y a aussi peut-être encore Wissam Ben Yedder à qui on ne donne pas souvent sa chance.
Il a pareil, il a passé la trentaine.
Bah oui, il a passé la trentaine. D'ailleurs, hier, il était même pas sur le banc des remplaçants, mais en tribune. Voilà. Comme tu le dis, ouais.
Il a 21 ans. Il a fait
21
ans.
Oui, 21 ans. Ça veut dire que c'est bon pour l'équipe de France, ça, Malik.
Voilà. Il y a Yassinad. Il faut qu'il appelle Yassinad. Il n'y a pas de choix parce qu'on n'a pas des joueurs. Il y a seulement quelques joueurs. Amoura, Ali Messaoud encore, 23 ans, avec Adam Zorgan. Je n'ai pas vu les autres. L'autre, c'est Louis Dade. Il a 31 ans. Lui, c'est fini. Et tout ça. Ouais, je n'ai pas vu l'équipe d'Algérie bien. Voilà. Voilà, on est obligé de ramener des étrangers, on n'a pas le choix. On a blessé le gardien de but, il faut qu'il ramène le Kazidan. Il veut jouer pour l'Algérie, un gardien de but à Mohamed.
Ouais, mais pour l'instant, l'instant.
Kazidan, avec l'ancien gardien de Nice, là, comment ça s'appelle, normalement il a appelé, il n'est pas venu. Je sais pas, il est.
Oui, je suis au courant de ce garçon, oui. Voilà, mais voilà. Pour l'instant, je pense que là, visiblement. Non, pour moi. Non, mais pour l'instant, pour moi, Belmadi, dans sa tête, il a deux joueurs sur lesquels il confirme. Il y a Zarouki, qui est aux Pays-Bas.
Oui, je sais, il est loin.
Voilà. Il est satisfait de sa prestation, notamment face à la Tunisie. Il y a des joueurs sur lesquels.
Il est bien. Voilà.
Mais.
Il y a un jeune qui joue à Eindhoven, hein. Un jeune Renault d'Algérien.
Au PSV Eindhoven.
Je ne connais pas son nom. Quelqu'un qui m'a dit, c'est un jeune.
Bon, écoute, on va le surveiller parce que normalement aux Pays-Bas, il y a beaucoup de Marocains, mais quand il y a un Algérien comme aux Pays-Bas, c'est bon à prendre. C'est toujours une bonne école de formation, les Pays-Bas. Hein.
Il y a un jeune que je te dis la dernière fois, Saïdi, il joue en Suède. 21 ans. Ouais.
Il va devenir suédois, lui.
Voilà. Et peut-être qu'il est bien le championnat de la Suède.
La Suède, c'est costaud, hein, attention. Hein, regarde,
c'est bien. Il faut qu'il va en Suède, il va regarder, il faut qu'il règle avec ses yeux.
Malik, ne l'oublie pas qu'au départ, Jamel, il a, on va dire, une quarantaine de joueurs. Et dans les 40, les 40 joueurs.
Tu m'as dit, c'est fini. Nice, Nimenani, Gudora, c'est fini.
Non, c'est normal. Adlen, il a 36 ans maintenant, Adlen.
C'est fini.
C'est vraiment la fin. Il y a Slimani aussi qui.
C'est fini.
Voilà. Il doit préparer la relève, c'est normal.
Pourquoi il n'a même pas besoin
de parce que pour l'instant. Peut-être qu'il a supervisé, qu'il ne lui donne pas satisfaction.
Ouais, il peut jouer la bourse, oublier la
main. Mais tu ramènes pas. Non, mais Malik, tu ramènes pas un garçon comme ça. Parce qu'il va le ramener.
On sait jamais, il est beau, hein. Il est beau à Mohamed.
Mais pour l'instant, tu sais quand tant qu'il est dans le championnat de Roumanie, il ne va pas l'appeler.
Je sais, mais il est beau, hein. Il est
c'est
beau,
comme ça, vois, c'est. Le football, il est comme ça, Malik. Hein.
On va l'essayer à Mohamed.
Ah, bah écoute, je ne suis pas l'entraîneur pour dire, Jamel, essaye tel joueur, non. Et il a.
Je vais passer un grand bonjour pour Hassan. Nezouekinoun à Vélis-Antoine. Il a un coiffeur avec qui on a bouché, je ne sais pas, Douri Zakvelin Pijaya, avec un Pakistanais. Je passe un grand bonjour à Boulevardé, dans 18 Ahmed, M. Zahish, Ahmed, Larver, Koulouch, avec Sahab Zahish. Blokasim Wadamizor, Mouhavour, Kimoki, et de l'autre côté, Mouhad, je vais te dire, de Berne, Amran Blidouada, Yonama Azkrim, il a restauré à Berne à Mouhad, en plus, sa petite Rachid à côté de. Les yeux, ils ont un café à côté pas de loin de la gare.
Malik, tous les cafés, ils ont des cafés. Hein.
Même ça, bon chance.
Ça y est, Malik, c'est une émission de foot. Voilà. Là, Malik, ça arrête. Hein.
Bonne continuation.
Merci. Bon, moi, j'ai envie de revenir, si vous permettez, sur notamment, les coachs, tu vas être d'accord avec moi. Je vais te le préparer, ce petit dossier, parce que c'est comme une... Comment je peux appeler ça? C'est comme une cerise sur le gâteau, tu vas tout comprendre.
Les dossiers de Fou de Sport.
Alors, dans ces dossiers de Fou de Sport, je t'ai préparé les coupes d'Afrique des clubs. Hier se sont déroulées les demi-finales allées de Ligue des Champions. D'abord, l'Espérance de Tunis a été battue à domicile par le FC du Caire, 1-0. C'est une demi-finale aller, je précise. Et le Wydad de Casablanca battu à domicile par les Sud-Africains de Kaiser Chiefs, également 1-0. Ça veut dire que déjà on s'achemine vers une finale Égypte-Afrique du Sud. Les matchs retour vont avoir lieu en Égypte et en Afrique du Sud. En Coupe de la CAF, pour l'instant, nous avons un premier résultat qui est en cours actuellement. On l'a dit, c'est le match Coton Sport JS Kabylie, toujours un but partout. Et il y aura un autre match ce soir qui va opposer et pas des moindres, l'équipe égyptienne des pyramides face au Raja de Casablanca. Et la finale de la Coupe de la CAF va se jouer au Bénin, sur un seul match. Donc si la GSC se qualifie, elle ira à Cotonou.
Ah bien, ouais. Ça c'est ce que j'avais rêvé pour nous. Mais nous c'était match aller-retour.
Ah oui.
Avec retour à TP Mazembe.
Ah bah forcément, là ça veut dire là, que tu, d'avance tu as perdu.
C'est mort, bah, certainement, c'est clair. Mais bon, après tu tentes le coup parce que tu dis on sait jamais. Mais bon, c'est bien qu'il tout doucement t'as vu la CAF enlève quand même tous les verrous. Sur les arbitrages truqués, tout ce qu'on a vécu, la vidéo, le VAR qui arrive un peu.
Bah, l'histoire, notamment quand Belmadi avait parlé de cet arbitre la zombie.
Ouais,
bien sûr. Ils ont réagi.
Ah oui, mais nous, on avait vécu des arbitrages plus catastrophiques que ça et ça passait pas en ce temps-là. Maintenant, ça passe, t'as vu, les informations sont là, tout se relève. T'as vu, même la FIFA a fait une enquête, a mené une enquête là-dessus.
Ouais.
Et c'est une bonne chose. En plus, sur un match comme en Europe, voilà, sur un match, t'as ta chance. C'est-à-dire quand ils jouent le Raja ou ils jouent le Pyramide, la GSK peut gagner le match. Ça peut être vraiment un vrai match, je vois.
Ouais.
Un vrai match de... Voilà, au moins l'arnaque africaine va disparaître tout doucement.
Mais c'est important, ça, la serre. Hein.
Ah, très, mais c'est énorme. Ouais. Moi, j'aurais joué une finale sur un match TP, je les joue tous les jours. Et on perd pas. Hein.
D'accord.
Je ne sais pas qu'on va gagner.
Oui,
mais le match, c'est autre chose. Hein.
Ouais. Parce que là, quand tu joues chez eux,
chez vous, si tu gagnes pas 3-0, t'es mort.
Ouais. alors pour l'instant, je prends ça au conditionnel. La GSK vient de doubler la mise. Pour l'instant, elle mène 2-1 à Yaoundé.
Ah, super.
Voilà.
Magnifique.
Ah, c'est... Non, mais au moins, on a la chance d'avoir ce club. Hein.
Ouais.
Hein,
ça fonctionne. Ah oui, grand plaisir.
Ouais, parce qu'en plus, toi, tu l'as
fierté. Ah oui, grand plaisir pour la fierté de tous nos compatriotes.
C'est toute une région.
Ouais.
Également, petit rappel, la Suisse mène 3-1. Troisième but des Suisses, décidément.
Oui.
Ah, les Turcs, c'est Wallou cette année. Hein.
Bah, ils ont remis un but quand même.
Ouais, voilà. Oui. Donc là, quand même, pour les Suisses, un doublé de chaque.
Mais c'est pas compréhensible, cette équipe. C'est pas équipe turque.
Non, mais j'ai pas compris non plus, Nasser. Non.
Ils sont arrivés ou fatigués, ou cuits, ou. Je sais pas, j'ai pas bien vu leur match, mais il y a quelque chose qui déconne. Hein.
En plus de ça, la Turquie a eu la chance de jouer deux matchs à Bakou. Bakou, c'est en Azerbaïdjan, quasiment à domicile. Avec des supporters. Donc, non, c'est une vraie énigme, Nasser. Sachant qu'ils étaient sur une grosse dynamique avant l'Euro.
Ouais.
Plusieurs matchs pareils sans défaite, etc. Vrai. Donc, et bon, c'était pas un groupe. Avec
tout compte, mais zéro point.
Ouais, zéro point, oui.
C'est ça qui est dramatique.
Ils jouent la Suisse, Pays-Bas, des jeux qui sont supportés.
C'est pas un groupe insurmontable, quoi, bien sûr.
En fait, on attendait mieux de cette équipe suisse, hein, mais turque, mais quand elle a pris lors du premier match 3-0 face à l'Italie, là, on s'est quand même posé des questions.
Et je pensais que la Turquie était capable de faire le coup qu'elle avait fait aux Pays-Bas. Hein. Mais bon.
Ouais, bien sûr.
Il y a des choses qui ne s'expliquent pas parce qu'elle n'était pas à l'intérieur du groupe, donc on ne peut pas expliquer l'inexplicable. Après, sur les choix des joueurs, le choix des clubs, de ce qu'ils ont été, les joueurs qui ont été pris, il y a un problème, là. Obligatoirement, il y a un problème. Un grand problème.
C'est clair.
Alors, on va revenir maintenant sur un autre dossier très important. Ce sont ces fameux droits télé qui ne sont pas finis. Le feuilleton est loin d'être terminé. Dorénavant, il faudrait supprimer le top 5 pour parler du Big Four, les quatre grosses nations, et ça y est, intégrer la France dans le club des quatre suivants. C'est ce qu'on appelle la tranche intermédiaire.
Les dossiers de Fou de Sport.
Alors, quand je parle de tranche intermédiaire, mon cher Nasser, tu sais bien que quand on regarde ces fameux droits, que ce soit chez les Anglais, les Espagne, Italie et Allemagne, bon, on est au-delà du milliard. Les Anglais ils sont au-delà du 2 milliards quasiment. Voilà, c'est la différence, elle est là. Et aujourd'hui en France, quand Canal avait négocié, c'était sur une base de 500 et des poussières, 530 ou 570. Donc, on s'est rendu compte et que finalement, allez, on va aller chercher Amazon, Canal qui claque. Du coup, la LFP se retrouve sans diffuseur pour ces fameux deux matchs. Canal dit oh, attendez. Vous me faites payer 330 millions pour deux matchs, et puis les autres, ils ont 8 matchs, et ils payent quoi, 250 par an. Il y a un problème là. Du coup, Canal est prêt à ne pas diffuser la Ligue 1 du tout la saison prochaine. En tout cas, dans leurs attendus, ils disent que les matchs de Ligue 1, en tout cas, ne leur apportent pas tellement que ça. et qu'ils vont se concentrer sur la Ligue des Champions. Par contre, avec Sofiane, on en parlait, ça pourrait éventuellement revenir à Beïn, qui viendrait faire ce qu'on appelle le pompier de service en attendant la suite.
Oui, c'est une bonne analyse, Mohamed, si ce n'est que, comme a dit, comme aurait dit le fameux président de la Ligue, il a dit, quand tu as Amazon qui met les pieds là, tu peux pas refuser. Parce que le problème d'Amazon, c'est pas lié à l'ouverture de ce qu'il faut aujourd'hui. C'est sur les 5-10 ans qui arrivent. C'est ça l'histoire. Amazon met le pied, commence à mettre le pied dans le football. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je sais plus, je crois que le chiffre d'affaires de Amazon, c'est 4 milliards. C'est 4 milliards, je crois, d'euros ou de dollars par an.
Non, plus que ça. Ça fait déjà un que la fortune de son Big Boss, elle est à plus de 80 milliards. Donc, il peut acheter 1000 fois.
J'ai cru entendre ça, 4 milliards ou 40 milliards de bénéfices, peut-être.
Oui, de bénéfices
peut-être. Ouais. Ouais. Donc, c'est rien du tout pour eux, ça. Exactement. C'est strictement rien. C'est ça. Et quand tu mets le jeu des GAFA qui est entre eux, quand tu mets Amazon, dis-toi que Facebook,
Google,
ils vont mettre le nez là-dedans.
Apple, ouais.
Ils vont tous mettre le nez là-dedans. Ouais. Ils vont mettre le nez là-dedans, obligatoirement.
Ils servent de précurseur en quelque sorte.
Tout à fait. Au début, c'est comme au poker. Tu mets 10 euros pour voir. Là, ils ne mettent pas beaucoup, ils vont voir. Et tu verras que demain, ils vont mettre le championnat à 14 ou à 16. Ils vont remettre des poules où les mecs vont se rencontrer 3-4 fois parce qu'ils vont imposer leur diktat. Et tu verras que Amazon, dans quelques années, ils vont mettre un peu plus. Mais bon, après, le championnat de France, est-ce qu'il vaut plus que ce qu'il est? Non.
Bah, c'est pour ça qu'on en a parlé dans cette émission. Le championnat de France est sorti du Big Four, du top 5, qui est devenu un Big Four. Voilà.
Oui, mais tu peux pas. Le problème des Anglais, c'est qu'ils ont beaucoup d'argent et ils prennent les meilleurs joueurs. Ça s'arrête là. Mais comme ils ont les meilleurs joueurs, ils les ramènent sur des terrains bien spécifiques à l'anglais, des stades, et ben de ce fait, tous les joueurs vont en Angleterre. Ben normal. Le salaire est beaucoup plus attrayant. Ils ont là, c'est terminé. Une fois que tu auras je pense pas que la France va pouvoir donner les salaires qu'il y a en Angleterre. Parce que dans la culture, c'est pas bien. D'accord, le salaire en France, c'est pas accepté du tout.
Il faut le reconnaître.
Ouais. Sure. Ils l'acceptent pas. Donc ça veut dire que tu vas te retrouver avec des entraîneurs bons, pas extraordinaires, mais bons, qui vont être hein, et des joueurs qui vont être bons, mais pas des joueurs extraordinaires, qui vont être attirés par ça. Mis à part le PSG, qui ont, eux ont les moyens de leur politique. Sinon, à part le PSG, qui peut proposer? Personne. Hein.
Et t'as Monaco parce qu'il y a la convention officielle, particularisme. Voilà.
Ouais, et encore, même Monaco. Ouais. C'est juste. Mm-hmm. Financièrement, c'est pas comme on le penserait. Mais tu es dans ces jeux d'offrande. C'est l'offre et la demande. Tu offres, tu demandes, tu veux combien, voilà, et tu t'acceptes. Et là, les joueurs viennent, se déplacent. Et les managers vont placer les joueurs où il faut les placer.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, à terme, est-ce que ce n'est pas la Ligue 1 qui est menacée? Parce que,
bien sûr que si.
Complètement.
Non, c'est simplement, elle est menacée pour la place qu'elle a là.
Oui.
Le Big 5, elle passe à Big 4, puisqu'elle n'est plus là. Ouais. Elle va se retrouver dans la deuxième zone. La deuxième zone, elle va être en haut de tableau pour l'instant.
C'est ça. Pays-Bas, Belgique, voilà. Portugal.
Comme tout le monde.
Voilà, comme tout le monde. Ouais,
c'est pour ça qu'il a, je ne sais plus qui avait dit ça, je crois que c'est le président de Canada, il avait dit, il faut que les clubs français repensent, recalculent une autre manière de penser le football en France.
Parce qu'apparemment, sa valeur s'est dépréciée.
Ben exactement ça.
Même le président de la République en a parlé. Quand il a été en interview sur RMC par rapport spécifiquement à la question du football en France, changer de modèle. Ouais. Changer de modèle, ce qui est un vœu pieux, parce que ça fait des années qu'on dit qu'il faut changer de modèle en France. Et il n'y a aucun club pour l'instant qui a initié ça, à part Lyon, qui a un modèle un peu différent.
C'est ça.
Après, le reste des clubs. Alors, qu'est-ce que ça va donner du coup? Parce que du coup, tu passes du rêve Media Pro à 1 milliard,
c'est ça, oui.
À 600 millions, qui est la valeur réelle. Et encore, moi, je pense que c'est un peu boursouflé du championnat. Et tu passes aussi avec le Brexit, avec un marché où tu exportes des joueurs, où ce sera plus, maintenant, ce ne sera plus possible. Et on voit que les Anglais, qui ne recruteront plus maintenant de joueurs sur le continent européen ou beaucoup moins, ont déjà anticipé et te sortent des jeunes anglais
de plus en plus hein,
voilà, qu'on n'a pas vu venir des clubs anglais te sortent des jeunes comme ça à droite à gauche, donc c'est à dire que déjà les anglais ont anticipé cet état d'autarcie quasiment footballistique.
Dernière pause hein, elle est très courte et puis voilà on va finir juste pour vous dire qu'à 15 minutes de la fin d'ailleurs ce sera notre fil rouge pour cette émission, pour l'instant, la JSK mène toujours 2-1 à Yaoundé face au Coton Sport de Garoua.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
Bon, alors je laisse coach répondre à Sofiane.
Pour
oui.
Ah, sur les droits télé.
Sur les droits.
Le fait que les Anglais n'allaient plus. Parce que tu sais que les deux ressources principales, je replace le propos, des clubs français aujourd'hui dans le modèle actuel, c'est quoi? C'est la vente de joueurs, donc l'exportation, et les droits télé. Les droits télé, on a vu que le rêve Media Pro, c'est fini, donc on va être à 600 millions, 650 millions d'euros, grand maximum, qui est un plafond de verre, voilà. Et au niveau de l'exportation de joueurs, vu que l'Angleterre était le principal marché où exporter les joueurs, en tout cas très cher, où les joueurs, les clubs français vendaient souvent en Angleterre, en première ligue ou en championship même, avec le Brexit et le fait que les Anglais maintenant sortent des jeunes joueurs, on voit de plus en plus de jeunes arriver. Donc, comment repenser le modèle, quoi? C'est ça le mon propos.
Ah, de toute façon, le marché, il est lié aux joueurs, il n'est pas lié à autre chose. C'est la qualité des joueurs qui va déterminer la qualité de jeu. Et derrière la qualité de jeu, tu as la qualité visuelle, la télévision. Si tu as des joueurs, tu as des grands joueurs dans les mêmes équipes, dans les grandes équipes anglaises, tu vas créer de l'audimat, obligatoirement. Et le fait que tu mets des jeunes joueurs anglais qui n'ont peut-être pas le niveau technique, ça va se voir rapidement. Toutes ces choses vont se voir rapidement. C'est pas qu'ils nous ont inventé une formation de très haut niveau. Simplement, c'est que en France, tu payes exactement le prix que ça vaut, pour pas dire autre chose. Et en Angleterre, le prix va flamber encore parce que les joueurs vont se rapatrier là-bas. De plus en plus, les meilleurs joueurs vont se rapatrier là-bas. Après, tu n'es pas dans l'obligation de savoir que tu as le football allemand qui revient, tu as les Italiens qui reviennent, tu as beaucoup de clubs qui reviennent là. C'est-à-dire qu'ils ont eu leur crise économique, on a vu l'Italie disparaître depuis 10 ans à peu près, et qui revient là gentiment. Après, on est toujours dans les jeux médiatiques. C'est quoi les médias? C'est les médias anglais, les médias américains, c'est eux qui payent, qui demandent. Maintenant, quand tu as Amazon qui met le nez dedans, ça veut dire qu'imagine les ouvertures qui vont sur d'autres clubs. C'est ce qu'il faut bien penser, hein. Après, t'as vu, à un moment, on a eu la folie des apparatchiks russes, apparatchiks.
Oui, on a connu ça, bien
Albanais,
sûr.
Oui. Qui venaient prendre des clubs et tout. Et après, t'as vu, ça a disparu. Ça a disparu parce que.
C'était des opportunités du moment, hein.
Oui, c'est ça. L'opportunité du moment. Mais tu t'imagines bien que ça, c'est un effet que sur le moyen terme. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est d'aller toucher les grands groupes. Et qui c'est quoi les grands groupes? C'est le GAFA, c'est Microsoft, c'est ces boîtes-là qui vont, eux, s'intéresser au football de plus en plus. Parce qu'ils ont besoin de faire une prestation de service sur les smartphones, sur ça, d'avoir le football.
Mais parce que, à partir du moment où tu commences à vendre le produit dès maintenant, en sachant qu'après la Coupe du Monde 2022 au Qatar, où ce sont des pays du Moyen-Orient, ont cette culture plutôt anglo-saxonne, n'oublions pas que derrière, il y a l'enchaînement de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, Canada et Mexique. Mais ça veut dire que c'est les États-Unis qui vont rafler la mise au niveau de l'organisation des matchs pour une Coupe du Monde, je précise, à 48 nations, là, c'est. On est plus à 48.
Combien on est là en Europe, là?
Là, 24.
Pour 24 voilà. Le double.
Oui, ouais. 48 nations à travers trois pays, États-Unis, le Canada et Mexique. Tu rajoutes 2 ans après les JO de Los Angeles. Tu comprends pourquoi les CAFA commencent à entrer, à mettre d'abord une première chaussure, quoi.
Ouais, mais c'est tout simplement parce que c'est un marché.
Oui.
Le marché du sport est devenu très très important. Après, tu.
Le business du sport, il est faramineux en termes de.
Ouais, mais surtout le football. Surtout le football. Les autres, la danse, là, les danses étoiles ou la gym, ils s'en foutent.
Oui.
Les gens s'en tapent réellement. Sinon, si ça n'est que le football, il prend sa place. Il prend de plus en plus sa place. Et ça devient des dérives. C'est-à-dire que ça devient une dérive. Bref, on va arriver quand même à des choses qui vont être très compliquées avec le long terme. Hein. Parce que si l'argent est concentré que sur un domaine, c'est compliqué aussi, ça.
Tu peux rajouter à ça, en plus, que toutes les compétitions que tu as ajoutées, moi, je pense qu'Amazon aussi, ils mettent le pied dans la porte, parce que je pense qu'ils sentent l'arrivée de la Super League aussi, qui, je pense, va devenir une alternative complètement... parce que le problème de la répartition des droits et de comment engendrer des recettes, en gros, c'est ça, ça s'est posé avec la crise du Covid. On le voit, des clubs comme le Real Madrid, qui sont des clubs, qui sont des institutions détenues par leurs socios, qui ont milité par la voix de leur président Florentino Pérez pour avoir cette Super League, pour justement avoir généré des revenus. Et je pense aussi que, tu sais, ces clubs-là, ils voient sur le long terme, ils voient aussi que les championnats nationaux, aujourd'hui, c'est plus porteur. Un championnat comme la Ligue 1 aujourd'hui, ça ennuie tout le monde, concrètement. Il n'y a pas de suspense, il n'y a rien, à part on sait qui sera champion. Donc ça veut dire que cette année, c'est l'exception.
Oui, parce qu'il fallait bien laisser un bout de gâteau de temps en temps, quoi.
Voilà.
Dans les autres gros championnats, on sait aussi plus ou moins qui seront les 3-4 premières équipes.
Toujours.
Et en Ligue des Champions, on a toujours les derniers carrés qui sont à peu près équivalents. Donc c'était aussi pour ça qu'il y avait cette volonté de faire la Super League. Et je pense qu'Amazon aussi, eux, sur le long terme, ils se mettent là-dedans parce que on voit que je pense que c'est l'orientation que prend le football.
Mais tu comprends ce que disait Vincent Labrune, qu'il était en contact avec Amazon depuis 2018.
Ouais.
Ça veut dire que ça remonte pas à hier.
Bien sûr.
Bien sûr. Ouais. Et que il y a eu une première opportunité qui s'est présentée avec l'histoire de Mediapro.
C'est
que la deuxième fois, il fallait pas la refuser. Il la refuse, mais Amazon ne reviendrait plus.
Ouais. Voilà. Plus, je sais pas, mais.
Oui, quand même.
Mais ces gens-là, ils te vendraient un chien mort tous les jours. Hein. Il n'y a même pas photo avec ces gars. Il n'y a pas d'état d'âme dans le business. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on voit une évolution. On voit aujourd'hui le monde des médias qui est complètement évolué. Les émissions de télé en voiture, voilà, la radio, c'est plein. C'est pourri. Et là, tu vois des joueurs.
Ils ont tous les mêmes dépêches.
Hein. Ouais, bah oui, bah, mais tu vois les joueurs qui en peuvent plus. T'as vu Varane, quand il a parlé, il a dit on n'en peut plus. Un jour, un match tous les trois jours, on n'en peut plus. Faut le savoir. Les gens ne pensent que c'est comme des esclaves.
Mais ils ont oublié une chose, ce sont des humains.
Oui. On s'en fout.
Et la création humaine, tu peux lui apporter des choses, mais le corps humain, quand il te dit je suis fatigué. Donne-lui tous les dopants du monde que tu veux.
Mais ils s'en foutent royalement, crois-moi. Ouais. L'argent avant tout. L'argent a plus de part que la vie des gens.
Mais et en gros, et ta vie au diable, c'est ça.
Tu vas voir que voilà, ils vont jouer tous les jours. Moi, j'imagine bien qu'on aura un match tous les jours du Real, un match tous les jours de Liverpool, intercalé un jour sur deux, et toute la semaine, tu auras ça tout le temps.
D'où l'évolution.
Avec 60 joueurs.
Ouais, 60 joueurs et trois coachs, et trois équipes de coachs qui vont s'occuper que de ça.
Ouais. Ben, c'est ça.
Ça devient comme Amazon quand tu livres les colis.
Mais regarde, si tu prends ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se rapproche le plus de ce modèle-là, c'est la première ligue avec les gros droits télé, etc.
Oui.
Et des matchs quasiment toutes les semaines, le Boxing Day, enfin, tous les jours. Les effectifs des gros clubs anglais, c'est quoi? C'est une trentaine de joueurs, en gros. Et c'est surtout, qu'est-ce que j'allais dire? Et en plus, on a quelque part anticipé, parce que pour le Covid, on a fait cette histoire des 5 changements. Mais il s'avère que ça va rester après coup. La réforme des 5
oui,
changements.
Oui. Ça bougera. Oui, ça restera, c'est fini.
Bien sûr, maintenant c'est quelque chose qui est gravé dans le marbre des lois du jeu, que les 5 changements.
Ils ont dit la VAR, avec la VAR, on va voir les pénalties, maintenant ils ne touchent plus à la VAR.
Ben voilà.
Il y a des fautes, de main, il y a tout, il y a des pénalties, ils ne mettent même plus.
C'est ça.
Incroyable.
C'est ça.
Alors, vous voyez, donc j'ai que des bras, hein. On repart du côté standard. Bonsoir.
Bonsoir Mohamed, bonsoir coach, bonsoir Sofiane.
Bonsoir Mahrez.
Mahrez, attention.
Alors Sofiane, c'est comment l'équipe de France? Explique-nous.
Bah quoi, équipe de France?
Bah tu disais quoi, qu'on n'est pas capable et tout ça, là, que j'étais dans la bonne foi, que je suis un peu trop chauvin, c'était ça.
J'ai dit la semaine dernière que tu étais dans la croyance, donc moi je te perturbe pas dans tes croyances, tu vois, si tu penses que l'Algérie peut battre la France.
C'est pas une question de croyance. Moi, comme je te dis, on a une équipe qui est capable de rivaliser avec eux.
Ah, ouais, bien sûr.
Ouais, c'est tout. Moi, je te dis, on a une équipe qui est capable de rivaliser avec eux. Aujourd'hui, sincèrement, je t'ai écouté ce que tu disais. Franchement, aujourd'hui, cet euro-là, comparé à la dernière Coupe du Monde, le niveau, il est plus élevé. Où je vous rejoins. Maintenant, il y a deux équipes en ce moment qui ne sont pas convaincantes. Et je pense qu'on va être d'accord là. C'est l'équipe de France et l'équipe d'Espagne.
Mmh. Ouais, pour l'instant, l'Espagne est décevante. Hein.
Ouais, l'Espagne est décevante.
Ouais.
Pour le moment, moi, ce que je vois, c'est l'Italie. Ouais. Je le dis, c'est la surprise de Storo et son rebranchant.
Donc, pour l'instant, on est dans le temps additionnel. L'Italie mène toujours 1-0. Pareil pour la Suisse 3-1 face à la Turquie.
Voilà.
La JSK à 3 minutes de la fin, elle mène 2-1.
Bravo pour la JSK, je suis très content.
Ah oui. Voilà.
Moi, après, je vais parler un peu sur l'équipe nationale locale.
Ouais, rapidement, parce qu'il nous reste 3 minutes avant de couper. Hein.
Oui, d'accord. Moi, je trouve un peu dur avec cette équipe nationale locale. Elle vient à peine de commencer.
Non, on n'a pas dit dur. Non, Mohamed.
Juste attends, Mohamed. Hein, pour le championnat d'Algérie et tout ça, je suis d'accord avec vous. Les dirigeants de football algérien, ce qu'il a dit, quoi, je suis tout à fait d'accord.
Mais Mohamed, t'as vu le gardien du Liberia, c'est une batata.
Oui, mais attention, si tu n'as pas du Liberia, tu n'as pas l'équipe des locaux du Liberia avec quelques joueurs vraiment professionnels. Mais bon, c'est pas une grande équipe, je suis d'accord avec toi, le Liberia.
Oui.
Mais aujourd'hui, si tu fais le compte rendu, les gars, si tu réunis Patelli, ou Alcaraz là qui nous ont vendu le tacticien aussi.
Ah oui, Alcaraz, oui. Non, j'allais dire Alcatraz. Ouais, ouais, ouais,
aujourd'hui, il y a des joueurs qu'on est en train de voir, comme le joueur Kidba, comme le joueur Amora, Smoudi, il y a des joueurs prometteurs.
Oui, je dis pas le contraire.
Après, il y a l'arrière du Mouloudia. Après, on n'est pas en train de dire qu'ils vont venir prendre la place des Riyad Mahrez et compagnie. Hein. Ouais. Non, après, il y aura certains qui vont piocher.
Début.
Il y a certains... après, moi, ce que je m'inquiète, pas, hein. C'est... Après, tu vois, il y a des joueurs. Moi, je pense pour le prochain championnat arabe, et la prochaine chaîne, pour construire, je pense qu'il y a une bonne idée. Après, moi, où ça va être embêtant pour Bougra, et moi, je pense, c'est mon avis, c'est que, comme il y aura des joueurs sûrement qui vont peut-être partir.
Bah, c'est normal, heureusement, heureusement qu'il
y a. Heureusement, oui. C'est là, on va voir ce que Bougra, comment il va les gérer, ces problèmes.
Ouais.
Mais il faut laisser le temps au temps. Après, moi, je vais taper un petit coup de gueule.
Rapide, parce que là, ça va couper,
c'est normal. C'est sur le nouveau stade Laurent.
Oui, c'est vrai.
J'ai jamais vu dans ma vie, il y a des gens, ils vont aller faire des matchs d'entraînement, ils vont faire des barbecues.
Hey, ça c'est incroyable. Des barbecues.
Il y aura une enquête là-dessus. Là-dessus, j'ai envie que les gens
fassent une enquête. C'est incroyable.
Quoi
à la fin du... ouais. Ils ont été faire un barbecue.
Où ça?
Au stade.
Voilà. Qui? Après, je vous dis encore une chose, hein. Sofiane, c'est pas la croyance. C'est voir ce que c'est le niveau de l'équipe d'Algérie. Les gens pour voir ce qu'on veut. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? On revient de l'équipe des années 90, on prenait des panés. Ou cette équipe?
Ah, mais l'équipe, elle est forte. Bah, elle est forte à son niveau.
Mais Mahrez, il n'y a pas photo. Bah, réfléchis un peu. Il ne peut pas y avoir photo par rapport à ces.
Non, mais après, on peut rester quand même aussi lucide. Et tu vois que. Moi, je te dis la vie. Tu vois l'équipe de France. Tu n'as que des joueurs qui jouent dans des grands clubs européens.
Oui.
Moi, je vois que, à part Riyad Mahrez, pour moi, si tu fais comparatif, Mahrez, c'est le seul joueur algérien qui a sa place en équipe de France.
Pour toi, tu vois ça. Moi, je ne vois pas comme ça. Moi, je vois du Ben Sbaini, du Figoli.
Non, Figoli, il n'a pas sa place en équipe de France. Non.
Bah, on s'en fout de la place en équipe de France.
Non, mais c'est ça. Si tu veux comparer les deux équipes, déjà, défensivement, par exemple, l'équipe d'Algérie, c'est pas terrible.
L'équipe de France, c'est que défensif. Offensivement, on voit rien.
Bah, c'est important la défense.
Oui, c'est important. Bah, mais tu sais, des matchs comme ça, c'est bien sur un temps, mais tu sais que c'est des courts termes, ça, défensif. Souviens-toi, l'équipe d'Algérie de Serdan qui jouait ça. Mais quand à un moment donné, tu n'arrives plus à tenir, t'as l'explosion, tu vas exploser. Hein.
Voilà. Mahrez, j'arrive au
tour. Bon,
tu mets un parti, on rebelote ça dimanche prochain.
À dimanche prochain.
Merci. Alors, juste pour vous donner quand même quelques résultats, déjà, définitif, Italie, Pays de Galles, 1-0. Italie qui termine première avec ses 9 points. Suisse, Turquie, 3-1. Les Turcs, ils ont vraiment pris beaucoup de valises durant cet Euro. Ils ont marqué un seul but, 3-1. Et pour l'instant, nous sommes dans notre temps additionnel. J'espère que j'aurai le temps de vous donner le score final. En tout cas, pour l'instant, là, il me reste 2 minutes pour couper. Et puis, la JSK mène 2-1. 2-1, c'est bien. Ça veut dire que le match retour se jouera au 5 juillet, non pas à Tizi, puisque il faut un stade homologué FIFA pour jouer. Et juste pour terminer. Alors, Nasser, ce n'est pas une polémique. Sofiane non plus. C'est... ce sont nos fameux youtubeurs spécialistes des réseaux sociaux qui se sont attaqués à Mahrez parce qu'il passe ses vacances à Mykonos en Grèce avec Youssef Attal, avec sa petite copine, etc. Oui, c'est pas notre religion, c'est pas, etc. Là, il dit comment ? Laissez le bonhomme, il est né à Sarcelles, il a grandi ici. Le gars, il vit pas avec vous. Là, il dit comme ça. C'est bon, là.
La Suisse passe.
Ouais. La Suisse, elle passe ?
Ça va dépendre, mais normalement, elle est très bien partie pour 4 points, ça devrait le faire.
Ouais. Les 4 points devraient se qualifier. Donc voilà, on a créé une petite polémique sur Mahrez qui n'a pas eu lieu. Franchement, moi, sa vie privée, c'est sa vie privée. Moi, ça m'est complètement égal.
C'est vrai, j'en parle même pas, moi.
Ouais,
c'est un non-événement.
Ouais, c'est un non-événement. Voilà, c'est pour ça que.
Je sais pas.
Moi, je voulais juste sortir ça pour vraiment mettre les choses à leur place.
Ouais. J'en parle même pas. Tu vois, tu veux. Les gens vont chercher les couches et
oui,
les
culottes. Oui, c'est ça, oui. C'est incroyable.
Avec ça à faire.
Oui, en gros, tu prends une fille de chez nous, elle va te faire les bons petits plats, le couscous, et Mahrez qui va faire la bidoche, et il ne pourra plus jouer en équipe nationale. Non, les gars, fais attention à toi. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous dimanche prochain, 18h-20h, sur l'antenne de Beurre FM.